Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, c'est lundi, c'est reparti, mais on est ensemble jusqu'à 9h sur RMC, soyez les bienvenus, nous sommes le lundi 15 juin, très bon début de semaine, 6h58, après quasiment 4 mois de combat, la fin de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, un accord a été signé cette nuit entre les deux ennemis. Que contient cet accord? Qui a gagné? Quelles conséquences pour nous en France? Le cours du pétrole à la baisse dès ce matin, le détroit d'Hormuz qui doit rouvrir, le général Jérôme Pélisserandi sera mon invité à 7h40 pour tout comprendre. Prendre à cet accord. Le face-à-face, l'ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle, Gabriel Attal, sera mon invité ce matin. D'ailleurs, évidemment, première question sur cet accord. Il a vocation, dit-il, à être président de la République. Eh bien, quelle serait sa position sur cet accord? L'Américain Donald Trump, qui d'ailleurs devrait se rendre en France et décoller des États-Unis autour de 8h30 heure française. Et puis Gabriel Attal, j'interrogerai évidemment sur les suites des défaillances de l'État dans l'affaire Liana et de la responsabilité de l'État. Le principe aussi de casseur-payeur. Tu casses, tu payes. Ça, c'était ce que disait Gabriel Attal. Eh bien, figurez-vous que Sébastien Lecornu veut le rendre possible. Il l'a annoncé hier soir. Rendez-vous donc à 8h30 avec Gabriel Attal. Et puis, est-ce qu'une prime de match, ça vous intéresse? N'oubliez pas, RMC vous fait gagner 30 000 euros et rajoute 500 euros à chaque but marqué dans ces matchs de la Coupe du Monde. Ça fait déjà 49 000 euros dans la cagnotte. Soyez bien à l'écoute, il y aura une alerte qui peut tomber à tout moment d'ici 9h. Il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h. Mais d'abord, la météo et Géraldine de Maurice, c'est beaucoup de soleil et de chaleur.
Ouais, la chaleur, on n'a pas fini d'en parler cette semaine. C'est vraiment que le début. Là, déjà ce matin, les températures ont bien grimpé sur le sud-ouest. On a dépassé les 20 degrés. Cet après-midi, on attend jusqu'à 35 degrés à Montpellier, Perpignan, 34 à Bordeaux, 33 à Nantes, La Rochelle. Il fera 30 à Paris, à Lyon, 28 à Marseille. On aura 21 en revanche à Lille. Avec, oui, beaucoup de soleil. On a de la grisaille quand même parfois près des côtes, Bretonne, Aquitaine ou de la Méditerranée. Mais sinon, c'est bel et bien le soleil qui domine et la chaleur qui va s'accentuer. À partir de mercredi, on devrait vraiment rentrer en canicule. Il fera souvent entre 32 et 36 degrés sur le pays. Jeudi, on attend jusqu'à 38 à Bordeaux, 37 à Lyon ou encore 36 à Paris.
Il est 7h. Très bon réveil, très bon lundi sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un accord de paix finalement trouvé entre l'Iran et les États-Unis. On vous le détaille dans ce journal. Le G7 débute à Évian aujourd'hui à la frontière suisse. De quoi chambouler le quotidien des habitants. RMC est sur place. Et puis nos toutes dernières infos sur la composition des Bleus, la veille de leur entrée en lice en Coupe du Monde face au Sénégal.
Plus de 3 mois et demi après le début de la guerre, un accord de paix enfin trouvé entre les États-Unis et l'Iran.
J'autorise la levée immédiate du blocus naval. Déclaration hier de Donald Trump sur sa plateforme Truth Social qui confirme l'annonce du médiateur pakistanais. Romain Cluzel du service politique de RMC, vous êtes en plateau avec nous ce matin. Alors, qu'est-ce que cet accord contient?
Eh bien, les Iraniens et les Américains assurent qu'ils mettent fin à toutes les opérations militaires, y compris au Liban. Cet accord, il permet d'envisager la réouverture du détroit d'Hormuz fermé depuis le début du conflit le 28 février dernier. Un détroit essentiel pour l'économie iranienne et pour l'approvisionnement en pétrole d'une grande partie du monde. Le passage des bateaux reste à sécuriser, mais Donald Trump annonce d'ores et déjà une réouverture pleine du détroit, sans droit de passage. Sur son réseau social, il ajoute que le pétrole coule à flot avant même la signature de l'accord prévu vendredi. Selon l'agence de presse iranienne MER, les Américains ont accepté de dégeler jusqu'à 24 milliards de dollars d'avoir iranien, mais plusieurs sujet reste toujours en suspens et désormais une période de négociation de 60 jours s'ouvre pour tenter de trouver un accord définitif. Téhéran réclame la levée de certaines sanctions internationales, mais c'est surtout le programme nucléaire iranien qui sera au cœur des discussions. Le président des États-Unis évoque un moratoire qui empêcherait l'enrichissement d'uranium par l'Iran pendant 15 à 20 ans.
Et vous l'évoquez, Romain, cet arrêt immédiat des opérations militaires, y compris au Liban. La question maintenant, c'est est-ce que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va respecter lui aussi cet accord? On a demandé à Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques.
C'est le sens global de l'histoire et c'est le mouvement de parvenir à un accord pour l'intérêt des deux belligérants, mais également des pays de la région et de la communauté internationale. Je ne suis pas sûr que ce soit cela qui fasse déraper les choses. En tout cas, il est clair qu'il faudra que Donald Trump contienne son partenaire Benjamin Netanyahou, parce que les deux n'avaient pas du tout la même stratégie du côté de Benjamin Netanyahou. Cette obsession de la destruction de la République islamique et de ses proxys semble clairement montrer au bout de 100 jours que tout ça est impossible. Donc à un moment, comme dit le proverbe, il faut savoir terminer une guerre.
Et ne manquez pas à 7h40 sur RMC, le général Pélis Randy. Que contient cet accord? Qui a gagné? Quelles conséquences pour nous? Réponse donc à 7h40.
Un accord qui sera évidemment aussi au cœur des échanges au G7, où Donald Trump doit atterrir cet après-midi et s'entretenir avec Emmanuel Macron. Le sommet des puissances mondiales débute aujourd'hui à Évian, à la frontière suisse, jusqu'à mercredi. Évian, c'est moins de 10 000 habitants en temps normal. Alors vous l'imaginez, la commune est transformée. Le reportage de Rachel Sadodine, l'envoyée spéciale sur place de RMC.
Sur les bords du lac, d'habitude noir de monde, les promeneurs sont rares, mais ils ont de la compagnie.
C'est un beau rassemblement d'hélicoptères. Il y a deux de l'armée et puis trois de la gendarmerie.
Les forces de l'ordre patrouillent aussi en bateau sur le lac et ça n'arrange pas du tout Nadia.
Moi, je voulais me baigner parce qu'il fait chaud, mais les policiers nous ont dit qu'on n'avait pas le droit à la baignade.
La jeune fille de 14 ans suit à grosses gouttes sous sa casquette. Malgré tout, elle s'estime chanceuse. Sa sœur, en terminale au lycée, va devoir aller passer l'épreuve de philosophie du bac à Thonon-les-Bains ce matin dans un bus escorté par les forces de l'ordre car le périmètre est bouclé. Pour circuler, les riverains doivent présenter un laisser passer comme celui de Cédric.
Mon nom, mon prénom, ma date de naissance, puis avec un QR code, quoi. Touche de contrôle, on est obligé de le montrer. On peut plus trop vivre.
Résultat, impossible pour les touristes d'entrer dans Évian. Les terrasses des cafés sont quasi vides. Seulement 3 personnes attablées au bistrot de Françoise.
Depuis 3 jours, c'est cata.
Et ça se ressent sur le chiffre d'affaires?
Ah oui, bien sûr, bah oui. Moins 50, moins 70%. Donc, on sait qu'on est patron et qu'on n'a pas de salariés, quoi.
Optimiste, la restauratrice appelle les forces de l'ordre et les membres des délégations officielles à venir déjeuner chez elle pendant le G7.
Un sommet où sera aussi évoquée la guerre en Ukraine, alors que plusieurs grandes villes ukrainiennes ont été bombardées cette nuit par la Russie. On compte au moins 9 morts ce matin à Kiev et à Kharkiv.
7h05 sur RMC, on parle maintenant de ce projet de loi pour durcir les sanctions contre les casseurs.
Annoncière du Premier ministre Sébastien Lecornu qui va envoyer ce texte dans les prochains jours au Conseil d'État. Romain Houck, c'est un projet de loi préparé en 2 semaines après les violences lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions.
Oui, Sébastien Lecornu veut afficher sa fermeté. Lorsqu'on participe à une violence collective, on doit en assumer individuellement les conséquences, explique-t-il. Concrètement, une personne présente dans un attroupement pourrait être tenue pour responsable des dégâts causés sans savoir si c'est bien cette personne qui a cassé une vitrine ou un abribus, par exemple. Le gouvernement en est conscient, un tel dispositif est très fragile devant la Constitution, alors les équipes de Matignon assurent fignoler le texte pour le rendre le plus robuste possible juridiquement. Et puis, Sébastien Lecornu souhaite mettre en place le principe du casseur-payeur. Cela pourrait passer par une ponction partielle chaque mois des aides sociales, soit du majeur mis en cause, soit des parents s'il s'agit d'un mineur. On ne sait pas encore quelle aide sociale pourrait être visée par l'exécutif. Dans tous les cas, une telle ponction se ferait à condition de laisser un reste à vivre suffisant aux personnes concernées.
Et vous vous souvenez du fameux « tu casses, tu payes » de Gabriel Attal? Eh bien, c'est justement Gabriel Attal qui sera mon invité à 8h30 dans le face-à-face et il réagira notamment à cette annonce de Sébastien Lecornu.
Et ce matin, c'est l'épreuve du bac de philosophie. 530 000 élèves de terminale attendus dans 1 heure. Avec cette année, une attention particulière à la maîtrise de la langue. C'est ce que martèle le ministre de l'Éducation depuis plusieurs semaines. Dans le Loiret, l'usine Duralex se met en pause après l'annonce du redressement judiciaire début juin. La verrerie installée à côté d'Orléans arrête ses fours pour 2 semaines. Le but, protéger la trésorerie et baisser ses charges. Seuls 2 salariés sur 17 resteront pour faire tourner l'usine qui affronte son 5e redressement judiciaire en 20 ans. C'est un chiffre RMC qu'on vous dévoile ce matin. Plus de 500 permis suspendus depuis le 1er janvier pour l'usage du téléphone au volant dans les 7 départements qui ont mis en place la mesure. Le téléphone serait la cause de près d'un accident sur 10 selon la sécurité routière. On y reviendra dans le journal de 7h30. Et puis plus qu'un jour avant l'entrée en lice des Bleus en Coupe du Monde. Rendez-vous à 21h demain soir sur RMC pour France-Sénégal. Fabrice Hawkins, la question maintenant, c'est quelle équipe va aligner Didier Deschamps?
Le staff de l'équipe de France doit composer avec un cas particulier pendant cette Coupe du Monde. William Saliba, le défenseur central, a une gêne au dos qu'il traîne depuis 2 mois. Depuis le début de la préparation, le champion d'Angleterre a un programme spécifique. Il ne fait pas tous les exercices avec ses partenaires. Didier Deschamps veut le gérer au mieux pour qu'il puisse être à 100% demain contre le Sénégal. Et sauf problème de dernière minute, il va débuter en défense centrale avec Dayot Upamecano. Dans la continuité de ce que les Bleus préparent depuis le début de la saison, Didier Deschamps va aligner 4 offensifs. Le capitaine Kylian Mbappé, évidemment, mais aussi Michael Olise et bien sûr le ballon d'or Ousmane Dembélé. La dernière place devrait revenir à Désiré Doué plutôt qu'à Bradley Barcola. Très performant contre l'Irlande du Nord lundi, Doué a confirmé qu'il pouvait être déterminant dans cette équipe.
Et cette nuit, la Suède a vaincu la Tunisie 5-1. Victoire aussi de la Côte d'Ivoire sur l'Équateur 1-0. Sans surprise, l'Allemagne a gagné contre le Curaçao 7-1. Les Pays-Bas n'ont pas réussi à venir à bout du Japon de partout. Du rugby aussi hier, le Stade français a écrasé La Rochelle 45-5 et décroche son ticket pour les demi-finales du Top 14. Le Stade affrontera Montpellier samedi prochain.
C'était le journal de Solène Gardré. Il est 7h08 sur RMC. Il fait chaud. Et c'est le début du bac, début ce matin des épreuves avec les lycéens qui vont devoir passer des épreuves sous des températures qui vont parfois dépasser les 30 degrés cette semaine. Bonjour Sophie Vénétité.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale du syndicat d'enseignants SNES-FSU. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que toutes les épreuves se dérouleraient désormais le matin. Enfin toutes, mais pas totalement toutes, c'est ce que vous nous direz dans un instant. Et puis surtout, vous trouvez que tout ça c'est assez bricolé. Stop aux rustines, votre parti pris dans un instant. Et puis je vous attends bien sûr au 32-16. Vous êtes professeur, vous êtes parents, dites-nous comment ça se passe chez vous, dites-nous si vous avez trouvé des solutions et puis si vous estimez que cette décision du ministre vous semble à la hauteur. Je vous attends au 32-16.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, donc dans 3 quarts d'heure maintenant. L'épreuve de philo, l'épreuve, la première, le coup d'envoi du bac qui commence et dans une chaleur très très importante. Bonjour Sophie Vénétité.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale du syndicat d'enseignants SNES-FSU et juste avant d'aller justement surveiller les épreuves de philo, vous êtes dans le studio d'RMC. Le pays s'apprête à vivre une nouvelle vague de chaleur. Le baccalauréat débute donc aujourd'hui. C'est avec évidemment beaucoup beaucoup de chaleur. Et un ministre de l'Éducation nationale qui semble avoir sorti de son chapeau la solution miracle, supprimer les épreuves l'après-midi. Il y en avait déjà pas beaucoup, faut être honnête.
Oui, en fait, il nous sort de son chapeau une solution qui existe déjà, puisque cette année, les épreuves de spécialité du baccalauréat général ont toutes lieu le matin, que pour le brevet, on est désormais sur 3 jours et plus seulement sur 2 jours, notamment à notre demande pour placer l'essentiel des épreuves le matin. Il reste une épreuve en début d'après-midi. C'est vrai que l'annonce qu'il fait, ça vaudra surtout pour l'an prochain pour le bac pro, parce qu'on se souvient qu'il y a 15 jours, les élèves du bac pro ont passé leurs épreuves en plein après-midi sous une chaleur accablante. Mais reste un angle mort dans les annonces du ministre, c'est la question des oraux, l'oral de français et le grand oral qui se déroulent sur l'ensemble de la journée.
Qui, eux, effectivement, peuvent tomber absolument à n'importe quelle heure de l'après-midi. Pour vous, c'est des rustines. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que tout ça, c'est un peu bricolé.
Oui, c'est encore une fois, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du bricolage. On sait qu'on bricole pour trouver des remplaçants et on sait aussi qu'on bricole face à la canicule. C'est-à-dire que là, on a un ministre qui, 3 jours avant, se dit, ah bah tiens, peut-être qu'il faudrait mettre les épreuves que le matin. C'est pas 3 jours avant qu'on arrive à gérer une canicule. On sait très bien qu'on est face à un réchauffement climatique et que ça nécessite pas seulement une adaptation des horaires, mais une adaptation du bâti scolaire. Il faut enfin mettre à niveau notre bâti scolaire pour faire face à des épisodes de réchauffement climatique qu'on connaît. Je veux dire, on est quand même la 7e puissance économique du monde. À un moment, on va arrêter de se dire que la solution, c'est de donner une casquette aux élèves, de faire en sorte qu'ils viennent avec une gourde ou de les arroser avec de l'eau dans la cour.
Ça ne suffit pas, tout ça c'est bricolé, mais concrètement, est-ce que les moyens sont mis en œuvre ? J'ai l'impression que chaque année, on nous parle de la question du bâti, chaque année, on nous parle de ces bouilloires thermiques que sont un certain nombre d'établissements scolaires. Est-ce que les choses avancent quand même ?
Les choses n'avancent pas, en tout cas pas assez vite, notamment parce qu'il y a eu des coupes budgétaires dans les fonds qui sont dédiés à la rénovation du bâti scolaire. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que pour faire la rénovation thermique des écoles, des collèges et des lycées, il faut entre 4 et 5 milliards par an pendant 10 ans. Le fonds vert, sur le budget 2026, il a été coupé, il a été passé à 800 millions d'euros, alors qu'il était au-dessus de 1 milliard d'euros les années précédentes. Donc le signal est très clair, le gouvernement n'a visiblement pas grand-chose à affaires de la rénovation du bâti scolaire. Il n'a visiblement pas grand-chose à faire du fait qu'on passe maintenant des jours, voire des semaines, dans des bouilloires thermiques. Et c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire, est-ce que collectivement, on accepte que des
au-delà de la question des jours d'examen, vous voulez dire?
Oui, c'est-à-dire que au-delà de la question des jours d'examen, on sait très bien qu'on va avoir des périodes de forte chaleur de plus en plus tôt, de plus en plus longues. Il faut pas oublier aussi que parfois l'hiver, on a très froid, et ça veut dire que collectivement, le gouvernement et notre société acceptent que on fasse cours dans ces conditions-là. Ce n'est pas acceptable.
En attendant, malgré tout, le fait de concentrer les examens le matin, ça vous paraît quand même une bonne chose, si toutefois on intégrait aussi la question des oraux?
Oui, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, on l'a demandé, ça fait plusieurs années, à chaque fois qu'on travaille le calendrier des examens, on demande à ce que les épreuves soient le matin, vu l'état du réchauffement climatique. Donc ça, les choses avancent. On va travailler aussi sur la question des oraux, mais ça ne sera pas suffisant. Face au réchauffement climatique, on peut pas poser des petites rustines chaque année, deux jours avant le réchauffement, avant les épreuves.
Stéphanie est en direct avec nous, professeure des écoles en Saône-et-Loire. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Comment ça se passe chez vous?
Oh ben chez nous ça se passe comme partout, avec des températures qui montent, et des bâtiments qui sont anciens, qui auraient besoin d'être rénovés, mais comme partout l'argent n'est pas là, et puis on a chaud.
Vous souffrez, les élèves souffrent?
Oh ben oui, les pauvres loulous, les après-midi principalement. Quand on leur demande de travailler un peu, le cerveau a du mal à réagir, quoi. Ça a du mal à réagir, ils sont un petit peu amorphes. Nous, c'est pareil. On travaille. L'année dernière, je me souviens, on arrivait le matin à 8h, j'avais 38 dans ma classe.
Ah oui, c'est énorme.
Bon, alors après, voilà, on adapte, on reste un petit peu plus longtemps dehors, on vaporise un peu les enfants, et puis voilà, on essaie de faire en sorte que ça se passe au mieux, quoi.
Et vous, dans l'école, il n'y a pas de solution miracle? On vous a pas débloqué des moyens, je sais pas, pour des stores, des rideaux, de la clim?
Alors, on a des stores, mais on a des stores qui n'occultent pas grand chose. Et puis, des grandes surfaces vitrées, donc ce qui fait que ça chauffe très très vite. On est orienté de tout le matin au soleil. Puis non, et les communes n'ont pas suffisamment d'argent pour. En plus, on est une petite commune avec pas mal d'écoles, et il y a des budgets. Il faudrait des budgets colossaux. Donc non, on n'a pas tout ça. On n'a pas de ventilateur. Ou alors on emmène les nôtres, quoi.
Oui, c'est
on
ça. C'est chacun. Chacun fait par ses propres moyens. Merci beaucoup Stéphanie pour votre témoignage. Bonne journée Stéphanie, et l'accueil des élèves, donc j'imagine dans peu de temps. Merci Sophie Vénédité d'être venue défendre votre parti pris, secrétaire générale du syndicat d'enseignants SNES-FSU. Je vous laisse filer pour aller justement accueillir les élèves, les futurs bacheliers qui passent donc l'épreuve de philo à partir de 8h. Il est 7h18, il a eu son bac. Arthur Chevalier est avec nous. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'historien du matin. Il va beaucoup être question de la Corse à l'Assemblée nationale. Depuis quand est-ce que la Corse est française?
1768, donc il y a plus de 250 ans. Et au début, entre la France et la Corse, c'était pas l'amour fou, puisqu'il y a même eu des affrontements armés quand la France est arrivée.
Vous nous le racontez dans un instant. Arnaud Demange arrive aussi pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas. 7h18, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h19 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Chaque matin, l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. Arthur, la Corse va-t-elle obtenir son autonomie? C'est ce qui se joue à partir de demain à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur un renforcement de l'autonomie de l'île va être débattu.
Et ça risque d'être musclé, puisque le but de cette loi, c'est d'octroyer donc une autonomie à la Corse. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que certaines lois et certains règlements qui s'appliquent partout en France ne s'appliqueraient plus là-bas en Corse. Donc il y aurait des sortes d'exceptions en fonction des spécificités de l'île. Dans un entretien au journal La Tribune dimanche, hier, le maire de Bastia, Gilles Simeoni, qui donc soutient l'autonomie, a prévenu, je cite, « si le Parlement nous ferme la porte au nez ou s'il nous envoie un signal négatif, ça sera lourd de conséquences ».
Lourd de conséquences. Trois petits points. Comment la Corse est devenue française d'abord, Arthur?
Alors, à l'origine, la Corse appartenait à la ville de Gênes, qui est en Italie. Au XVIIIe siècle, Gênes, c'était un empire très puissant. Sauf que Gênes devait beaucoup d'argent à la France et elle ne parvenait pas à nous rembourser. Comment faire? Eh bien, on a trouvé une solution. Plutôt que de rendre l'argent, Gênes nous a donné la Corse. Donc, en 1768, l'île de Beauté devient française. Ce qui est en fait assez récent, parce que pour vous donner une idée, quand la Corse a été rattachée, la Martinique et la Guadeloupe étaient déjà françaises depuis plus d'un siècle.
Les Corses, ils étaient d'accord pour devenir français?
Alors, dans un premier temps, pas du tout, il faut bien le dire quand même. Et justement, le problème, c'est qu'on ne leur avait pas demandé leur avis. C'est ça qu'ils ont mal pris. Et donc, quand la France arrive, elle est plutôt très mal accueillie. Et les Corses vont résister militairement. Il va même y avoir une bataille entre les forces françaises et les patriotes corses. Cette bataille, c'est la bataille de Ponte Novo. Elle a lieu en 1769 et ce sont les Français qui vont la remporter.
Est-ce que les relations vont ensuite s'apaiser entre Corses et Français ?
Oui, ça va s'apaiser. La France a rapidement dépensé beaucoup d'argent dans l'île. Elle a apporté une administration, des infrastructures. Les petits Corses avaient même droit à des bourses de l'État pour aller étudier sur le continent. Certains de ces boursiers feront d'ailleurs des carrières extraordinaires. L'un d'entre eux, c'était le jeune Napoléon Bonaparte.
Ah bah tiens,
voilà.
Ça c'est étonnant.
Il venait d'Ajaccio et il a fait ses études militaires sur le continent grâce à une bourse de l'État français.
Les Corses vont finalement déclarer leur amour à la France. Bon, enfin, à cette époque-là, quoi.
Oui, c'est en 1789. 1789, c'est évidemment l'année de la Révolution française. Donc, c'est un nouveau régime politique. On crée la première Assemblée nationale. Et ce sont les députés de Corse à l'Assemblée qui vont demander qu'on reconnaisse la Corse comme française. Ce qui sera fait. Depuis, la Corse est donc française à la demande des Corses. En 1982, l'île a d'ailleurs obtenu un statut particulier. Ce statut lui permettait notamment d'avoir sa propre assemblée régionale, l'Assemblée de Corse. C'était une première en France. Le projet de loi actuel renforcerait donc cette autonomie.
Et l'histoire qui donc évolue cette semaine. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Mon invité à 8h30, ce sera Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle.
Eh ben oui, Apolline, puisque ça y est, la présidentielle commence. Donc vous recevez un des candidats. À partir d'aujourd'hui, il y en aura un par jour jusqu'à l'élection.
Oui.
Vu qu'il y en a actuellement 1427
voilà.
Des candidats. Tiens, on va jouer un petit jeu pour démarrer la journée. Je vous donne des noms de candidats à la présidentielle et au milieu, j'ai glissé mon charcutier, ma charcutière. À vous de trouver l'intrus parmi Benjamin Lucas, Anas Kazib, Dominique Charles ou Lydie Massard. Alors, lequel...
Qui n'est pas candidat ?
Lequel Lydie ne sera Massard pas président, hein ? Eh ben non, Lydie Massard, elle est candidate.
Et candidate,
elle est candidate, c'est Dominique Charles, mon boucher.
Ah,
on l'embrasse.
Bon, le salut.
Donc, vous voyez, c'est pas facile. Hein.
Ah, non,
ce matin, c'est Gabriel Attal. Apo, faudra vraiment le libérer à 8h55, il a bac philo. Juste
ah oui,
le passer. Faites-lui réviser, tiens. Gabriel Attal, bonjour. Alors, choisissez un de ces trois sujets. L'échec est-il un mal en soi ? Peut-on apprendre par l'échec ? Ou le progrès humain est-il bâti sur les échecs ? Mais Madame de Malherbe, pourquoi que des sujets sur l'échec ? Devine ! Alors, Attal, 38 ans, Bardella, 31 ans, cette présidentielle, ça va être l'école des fans.
Bonjour mon grand, comment tu t'appelles ?
Gabriel.
Et tu veux faire quoi dans la vie, Gabriel ?
Président de la République.
Les enfants sont formidables. C'est ton papa et ta mamie dans le public avec le caméscope ?
Non, c'est Emmanuel et Brigitte, c'est des amis. Alors Gabriel Attal, il va se...
Je l'ai eu en...
Ah oui, en deuxième temps, en deuxième rideau. Gilette de lame. Alors, Gabriel Attal, on disait, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie ? Eh ben, il veut instaurer le fichage des pédocriminels. Alors, voilà. Ça existe déjà, ça s'appelle le classement des personnalités préférées des Français, JDD 95. Il y a l'abbé Pierre, PPDA, Bruel, Nicolas Hulot, le commandant Cousteau. Alors, je sais que Cousteau, il a rien fait officiellement. Il a vécu parmi les macros, il a caressé des raies. À mon avis, il est dedans. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre, Gabriel Attal, dans la vie ? Il a pour principal concurrent Raphaël Glucksmann. Voilà ce qu'il a. Parce qu'ils sont un peu sur le même électoral. Les deux. Moi, j'aimerais bien voir un débat Glucksmann-Attal.
Monsieur Glucksmann, hein.
Monsieur Attal, hein.
Je vais gagner, hein.
Non, c'est moi qui vais gagner. Hein.
Vous n'avez pas le monopole des bobos du 11e ?
Oui, mais moi, je suis soutenu par les véganes du 10e. Hein.
Et moi, par les étudiants en commerce du 6e. Hein.
Et moi, par les propriétaires d'une chaîne de street food qui fait du pâté végétal dans le 19e. Hein. Car nos régions ont du talent. La France a un incroyable talent.
Non, la France a un incroyable Attal. Hein.
Voilà, rendez-vous avec Gabriel Attal à 8h30. Ans. Et à tout à l'heure.
C'était un autre manche, mesdames, messieurs.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et vous l'entendez, c'est le moment de jouer. Ouais. Ça, c'est tous les zéros. C'est tous les zéros qui...
Les buts du week-end.
Ils s'enchaînent, c'est tous les buts du week-end. Parce que, vous le savez, on joue et on gagne. C'est la prime de match sur RMC. On avait commencé, souvenez-vous, avec 30 000 euros. Et on rajoute 500 euros à chaque but marqué depuis le début de la Coupe du Monde. Avec les matchs de cette nuit, on est à 49 000 euros. 49 000 euros au moment où on se parle. Retenez bien le montant de cette prime. Parce qu'à tout moment, on peut vous appeler. Et si quand on vous appelle, vous donnez le montant de la prime, et bien vous repartez avec. Envoyez dès maintenant but au 732-16. But au 732-16 pour vous inscrire. Vous avez 10 minutes. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il est 7h26. On se retrouve dans un instant sur RMC pour la météo et le journal. Juste après. Après 3 mois et demi de guerre, eh bien enfin un accord cette nuit entre l'Iran et les États-Unis. L'annonce a été faite par Donald Trump lui-même et par les Iraniens. Fin des combats, ouverture du détroit d'Hormuz. Que contient cet accord? Qui a gagné? Quelles conséquences pour nous? On fera le point avec le général Jérôme Pédis-Randy qui sera mon invité à 7h40. À 7h50, la voix de droite sur RMC parce que c'est lundi. Eh bien Louis Sarkozy reviendra sur l'un des événements de cette nuit, la soirée MMA à la Maison-Blanche pour l'anniversaire de Donald Trump. Le MMA est le plus beau sport du monde. Voilà le parti pris ce matin de Louis Sarkozy, la voix de droite. Il est 7h27, à tout de suite. Il est 7h29, dans un instant le journal, mais d'abord la météo. Géraldine a mis sa chemise jaune et en effet c'est parfaitement d'actualité, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui.
Beaucoup de soleil et il va y avoir de plus en plus de chaleur. Déjà les températures qui ont bien grimpé sur le sud-ouest hein, cette nuit avec les 20 degrés qui ont déjà été dépassés. Cet après-midi on devrait atteindre les 35 à Perpignan, à Montpellier, 34 à Bordeaux. Il va faire 33 degrés à Nantes, à La Rochelle ou à Toulouse, 30 à Lyon, à Paris, 28 à Marseille, 25 à Reims, Nancy, Nice ou encore 21 à Lille. Avec oui, beaucoup de soleil, on a quand même quelques grisailles. Parfois près des côtes en Bretagne, les côtes aquitaines et méditerranéennes. Et puis à noter donc que ces températures qui vont vraiment s'envoler dans les prochains jours. À partir de mercredi, on devrait vraiment parler de canicule avec des vigilances oranges hein, qui vont commencer à arriver. On sera entre 32 et 36 degrés quasiment sur tout le pays. Pour jeudi, on devrait atteindre les 38 degrés à Bordeaux, 37 à Lyon, 36 à Paris. Et donc ces fortes chaleurs qui devraient durer au moins jusqu'en début de semaine prochaine.
7h29 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Accord annoncé et bientôt signé. Iran et États-Unis assurent mettre fin aux hostilités au moment même où l'équipe iranienne de foot a posé le pied sur le sol américain pour son entrée en lice à la Coupe du Monde. Nous serons en direct de Los Angeles dans un instant. Plus de 500 permis suspendus à ce jour. Premier bilan en exclusivité sur RMC des sanctions renforcées pour usage du téléphone au volant. Elles entrent en vigueur dès aujourd'hui dans un 8e département. Et puis les images folles du combat de MMA du français Cyril Gann, vainqueur cette nuit au beau milieu des jardins de la Maison-Blanche.
L'Iran et les États-Unis annoncent un accord de paix.
Qui ne sera signé que vendredi à Genève, mais déjà chaque camp crie victoire. L'armée iranienne assure que c'est, je cite, une humiliation pour ses ennemis, qu'ils sont contraints d'accepter leur défaite et que Téhéran n'a pas encore cédé sur son programme nucléaire. Ce n'est pas exactement ce que racontait le vice-président américain J.D. Vance hier soir à la chaîne Fox News.
Premièrement, c'est l'ouverture immédiate du détroit d'Hormuz et bien sûr la levée du blocus naval qu'on a imposé à l'Iran. Deuxièmement, cela signifie que l'Iran ne possédera jamais l'arme nucléaire. Elle ne cherchera pas à s'en procurer une par quelque moyen que ce soit. C'est un élément fondamental de cet accord. Si les Iraniens respectent cet accord, le Moyen-Orient sera fondamentalement transformé pour les 50 prochaines années. La guerre prendra fin et le Moyen-Orient deviendra plus attractif pour les investissements.
Et réaction immédiate des marchés financiers. Le cours du pétrole a chuté moins 6,5% autour de 83 dollars le baril. On y reviendra avec Emmanuel Lechypre après le journal de 8 heures. Réaction diplomatique également. Le chef des Nations Unies salue une étape cruciale pendant qu'Emmanuel Macron dit attendre de voir les conséquences de cet accord, notamment sur la situation au Liban. Il en sera évidemment question à Evian qui reçoit dès aujourd'hui un sommet du G7 où Donald Trump est attendu en fin d'après-midi. Côté israélien, c'est pour l'instant le grand silence. Cet accord, il intervient en plein mondial de foot aux États-Unis et au moment où l'équipe iranienne est arrivée hier à Los Angeles. Son premier match, la nuit prochaine, 3h du matin contre la Nouvelle-Zélande. Nicolas Pelletier, vous êtes l'un des nombreux envoyés spéciaux de RMC en direct de la ville californienne. Et pour la première fois hier, la délégation iranienne a pris la parole. Nicolas Pelletier qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la matinale évidemment pour vous parler de cette délégation iranienne qui a pris la parole juste avant son match contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles au mondial de foot. Au programme aussi aujourd'hui dans ce mondial, l'entrée en lice de l'Espagne contre le Cap-Vert à 18h, celle de la Belgique contre l'Égypte à 21h, et puis je vous donne les derniers résultats de cette Coupe du Monde. La Suède a dominé cette nuit la Tunisie 5-1, les Pays-Bas et le Japon ont fait match nul 2-2 et la Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0. Il est 7h33 sur RMC. Suspension de permis pour usage du téléphone au volant. Un huitième département s'y met aujourd'hui. Il s'agit des Deux-Sèvres qui emboîtent le pas des Landes ou encore de la Charente-Maritime. Pierre Bourgès, correspondant de RMC dans le Sud-Ouest, vous nous dévoilez en exclusivité un premier bilan de cette mesure. Depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont été suspendus.
Oui, et je voudrais d'ailleurs vous présenter Claire. Ce matin, cette coach sportive landaise s'est fait arrêter par les gendarmes en janvier dernier. Elle avait son téléphone dans les mains alors qu'elle était au volant de sa petite berline grise. Résultat, 135 euros d'amende, 3 points en moins, et son permis a été suspendu 15 jours. Écoutez.
Si je dois être honnête, je me suis effondrée. J'en ris aujourd'hui, mais c'était, sur le moment, c'était un drame pour moi parce que mon activité me demande de me déplacer tout le temps. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai essayé de faire en sorte que mes rendez-vous soient plutôt en visio qu'en réel.
Et alors, on rappelle, c'est un drame, mais ça reste illégal. Et dans les Landes, eh bien, ce n'est pas la seule à s'être faite sanctionner, puisque depuis le 1er janvier, 400 permis ont été suspendus à cause du téléphone, selon la préfecture. C'est aussi 21 dans le Pas-de-Calais, 38 dans le Lot-et-Garonne et 55 en Charente-Maritime. La Ligue contre la violence routière plaide pour une généralisation de cette sanction, d'autant qu'elle a un effet dissuasif dans les Landes et en Charente-Maritime. Par exemple, depuis la mise en place de cette mesure, le nombre d'infractions constatées a diminué de 10 à 20. 25%.
Pierre Bourgès pour RMC. On retourne à Los Angeles pour retrouver Nicolas Pelletier. Je vous en parlais à l'instant de cette équipe iranienne qui fait son entrée en lice à la Coupe du Monde de foot dans un contexte très particulier. Cette annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Nicolas Pelletier, je le disais donc, pour la première fois, la délégation iranienne a pris la parole hier.
Oui, après plus d'une heure et demie de contrôle par les services de l'immigration, le groupe iranien a pu fouler le sol américain et monter dans un bus siglé République islamique d'Iran. Tous les joueurs ont eu le précieux sésame, mais 11 membres du staff, dont le président de la fédération, ont dû rester de l'autre côté de la frontière à Tijuana au Mexique, faute de visa. Pour ses premiers pas à Los Angeles, le sélectionneur iranien Amir Galenoé a voulu apaiser la situation.
Je suis très heureux de représenter ma grande nation qu'est l'Iran. Je suis très content d'être là. Nous sommes ici pour jouer au football, nous respectons tous les Iraniens. Il faut séparer le foot et la politique.
Ce premier match face à la Nouvelle-Zélande inquiète fortement la FIFA, qui craint des messages politiques en tribune de la communauté iranienne de Los Angeles, fortement opposée au régime. La FIFA qui scrutera aussi des joueurs iraniens par crainte d'une action politique pendant les hymnes nationaux.
Nicolas Pelletier en direct de Los Angeles pour RMC. Coup d'envoi de ce Iran-Nouvelle-Zélande. Ce sera à 3h du matin, à suivre évidemment sur la radio digitale 100% Coupe du Monde de RMC. L'ultime stress pour les élèves et les parents également. Début de l'épreuve de philosophie du bac dans moins d'une demi-heure. Désormais, 530 000 terminales technologiques et générales vont plancher cette année sous une chaleur qui revient dès aujourd'hui. Et puis du MMA à la Maison Blanche. Y a-t-il plus américain que cet événement, ces combats, cette nuit? Y a-t-il plus Donald Trump que ce cadeau que s'est offert le président des États-Unis pour son anniversaire? Morgan Maury, vous avez commenté, vous avez tout suivi pour RMC cette nuit, et un Français a brillé, c'est Cyril Gane.
Oui, un Français, maître du monde au siège du pouvoir américain, le natif de La Roche-sur-Yon, Cyril Gane, un enchaînement gauche, droite, gauche pour terrasser le Brésilien Alex Pereira dans ce combat poids lourd à l'UFC, la plus prestigieuse des organisations de MMA, les arts martiaux mixte. Cyril Gane a eu droit à quelques mots et une félicitation de Donald Trump, présent au bord de l'octogone. Par intérim, ça a son importance. Champion du monde par intérim, un mot qui a son importance pour Cyril Gane. Le vrai champion, c'est le Britannique Tom Aspinall, mais il est en bisbille avec l'organisation, avec l'UFC, à cause d'une blessure à l'œil contractée lors d'un précédent combat face à Cyril Gane. Il n'est pas certain de recombattre et l'organisation pourrait le destituer. Et alors, ce serait la promotion en tant que champion du monde régulier pour Cyril Gane. Ce serait la première fois qu'un Français devient champion du monde de l'UFC, champion du monde de MMA dans la plus prestigieuse des organisations. Il faut patienter pour Cyril Gane, qui a donné rendez-vous au 5 septembre date d'une soirée en France, à Bercy.
Toutes les explications signées Morgane Maury pour RMC.
Et Morgane ne manquait pas tout à l'heure à 7h50, la voix de droite sur RMC, Louis Sarkozy, qui ce matin déclarera sa flamme au MMA, à ses yeux le plus beau sport du monde. Il est 7h37, le quintet, ça se passe sur l'hippodrome de Longchamp.
Ah oui, départ à 18h30, le pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le 10, Stangeli, son outsider, le numéro 13, El Pequeño, le 10 et le 13.
C'était le journal de Victor Pourchet, 7h38. Tiens, dans votre journal, vous le disiez, Victor, ces permis qui, pour certains, sont suspendus pour cause de téléphone au volant. Et il y a Stéphane qui voulait réagir depuis l'Isère. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est bien de suspendre carrément jusqu'à 15 jours de suspension de permis,
voire plus,
si vraiment on est chopé, j'allais dire, avec le téléphone au volant?
Bah, de toute façon, on est face à un changement d'habitude de conduite. Je réagissais vis-à-vis des boîtes automatiques. Aujourd'hui, on a 75 à 80% des immatriculations de voitures neuves qui sont en boîte automatique. Il y a à peu près un tiers du parc véhicule circulant qui est à boîte automatique, ce qui laisse la main droite de libre. Forcément, il faut l'occuper dans la voiture. Et moi, je le vois de plus en plus. Il y a une main sur le volant et puis le téléphone dans l'autre main, pas forcément pour
moi, j'ai un souvenir du permis de conduire. On devait avoir les deux mains sur le volant.
Ouais, on devait avoir les deux mains sur le volant, normalement, au moment du permis.
Oui, sauf qu'à cette époque-là, on avait des boîtes manuelles. Et aujourd'hui,
mais ça vous choque, Stéphane, ou au contraire, vous vous dites, de toute façon, il n'y a plus de boîte, donc...
Non, ça me choque pas. La technologie a évolué, il faut faire évoluer la réglementation en fonction.
Donc pour vous, on est à contre-temps?
Non, il faut accélérer les choses. Il faut que ça se répande sur tout le réseau et que les gens qui ont le téléphone dans la main, ils se fassent allumer, quoi. Voilà. Moi, j'ai que des boîtes manuelles, le téléphone, je peux pas. Je joue première, deuxième, troisième toute la journée. Je peux pas l'avoir dans la main droite. C'est pas possible.
Bon, et donc, tant mieux, effectivement, parce qu'il faut faire gaffe. Les chiffres, ils sont très importants. Il y a eu 500 permis qui ont été suspendus.
500 permis suspendus depuis le début du mois de janvier. Ce sont les Landes, qui ont lancé ce mouvement. 8 départements, désormais. Rappelons que le téléphone est mis en cause dans près d'un accident sur 10 selon la sécurité routière.
Merci Stéphane, 7h40 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Alors, est-ce que ça y est, la guerre est finie? Soulagement après l'annonce d'un accord entre Iran et États-Unis. Du côté du baril de brut, d'ailleurs, c'est immédiatement descendu. Les bourses asiatiques en forte hausse, le pétrole en baisse. Bonjour, général Jérôme Pellistrandi.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale et vous allez nous éclairer ce matin. Que contient cet accord? Y a-t-il un gagnant? Y a-t-il un perdant? Quelles conséquences pour nous en France? Vous nous expliquez tout sur RMC dans un instant, 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très belle journée à tous, 7h44 sur RMC. Après 108 jours de guerre, accord cette nuit entre l'Iran et les États-Unis. Bonjour général Jérôme Pellistrandi.
Bonjour Apolline.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Un accord et la fin immédiate et définitive des opérations militaires entre l'Iran et les États-Unis, confirmé par les deux parties. Cet accord, il sera officiellement signé vendredi en Suisse, mais il a des conséquences immédiates avec la fin des combats. Qui a gagné?
Alors, si on est à Téhéran, pour Téhéran, c'est l'Iran qui a gagné. Et c'est vrai, ils ont tenu tête donc à la première puissance militaire au monde. Le régime a survécu malgré les frappes qui ont décimé la tête du régime au début. Donc, à Téhéran, oui, c'est nous qui avons gagné. Et à Washington, Donald Trump, il dit que c'est lui qui a gagné. C'est la plus grande victoire depuis tout le temps. En fait, on est dans une espèce de match nul. Ça va être très compliqué de voir les suites. En tout cas, chacun est content.
Au moment où on se parle, ça veut dire que la fin a été immédiate et définitive, dit-on, des opérations militaires entre l'Iran et les États-Unis. D'abord, qu'est-ce qu'il y a au moment où on se parle dans cet accord qui sera enrichi dans les 60 jours qui viennent?
Alors, c'est justement le problème, c'est qu'on ne connaît pas le texte de l'accord. On a, du côté de l'Iran, 14 points qui ont été exprimés, rapportés par une agence de presse officielle. Et du côté de Washington, on n'a pas le texte sur qu'est-ce qu'il y a dedans. La seule chose que l'on sait, c'est que en fait, il y aura une signature donc en Suisse vendredi, et que on va rentrer dans une phase de négociation de 60 jours pour rentrer en fait sur le fond du problème. Et puis, on a dit oui, arrêt des combats c'était déjà plus ou moins le cas entre l'Iran et les États-Unis, mais bien sûr, il reste la question essentielle du Liban, hein, où encore ce matin, il y a eu des frappes dans le sud du Liban, donc entre Israël et le Hezbollah.
Le Pakistan, qui est médiateur de ce conflit, affirme que cet arrêt des combats, c'est sur les différents fronts, y compris le Liban.
Et oui, or c'est bien ça la problématique, c'est que pour Israël, le Hezbollah constitue une menace existentielle et on voit bien aussi que le Hezbollah harcèle. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les heures et jours à venir? Est-ce que il va y avoir vraiment une cessation des hostilités au sud du Liban, avec chacun restant dans son coin? Bah, pour le moment, il va falloir attendre et observer.
Le détroit d'Ormuz, ouvert ou fermé?
Alors, si on écoute Donald Trump, il suffit que les bateaux, hop, redémarrent le moteur.
Il dit même, repréparez vos moteurs.
Oui. Alors ça, c'est
voilà, du Donald Trump.
C'est du Donald Trump, parce que ça va être beaucoup plus compliqué que cela. Il faut, bah, dans un premier temps, garantir la sécurité des bateaux. Aucun armateur ou aucun assureur, et encore moins les équipages, ne vont prendre le risque de passer dans un détroit où il y a peut-être des mines. Donc il y a toute une opération de déminage à envisager, et cela, il va falloir le faire avec la bonne volonté des Iraniens. Et là aussi, ça va être quelque chose qui va être compliqué à gérer. En tout cas, c'est pas dans une demi-heure que les premiers bateaux vont pouvoir franchir la ligne de départ dans le détroit.
Quel rôle pour la France? Emmanuel Macron avait annoncé, en accord avec la Grande-Bretagne, une sorte de coalition pour sécuriser justement le détroit d'Ormuz. Quel peut être notre rôle?
Alors, le rôle de la France avec ses partenaires, notamment britanniques et de la coalition, peut être important justement pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Avec, dans un premier temps, le déminage, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est entre chercher une aiguille au milieu d'une botte de foin. Hein. L'espace maritime est grand, il va falloir le faire. Et là, les Français ont envoyé des capacités, les Britanniques de même, nos partenaires italiens. Et ça pourrait être, une fois l'accord signé, une phase qui pourrait être engagée très rapidement.
Vous nous disiez, Général Jérôme Pélisse-Randy, à l'instant, que chacun allait revendiquer la victoire. Il y a un signal, Donald Trump avait dit que cet accord interviendrait le jour de son anniversaire. C'était donc effectivement le cas, le jour de ses 80 ans. Est-ce que de ce point de vue-là, en effet, c'est un signe qu'il a obtenu ce qu'il voulait?
Alors, c'est un signe qu'il va pouvoir passer à autre chose. Alors, bien sûr, il y a le G7 qui s'ouvre dans quelques heures, donc à Évian, donc en France. Donc, il va pouvoir arriver en disant, voilà, j'ai réglé le problème. En fait, il a rien réglé. On est dans la même situation qu'au début de la guerre. Mais néanmoins, il va considérer que le dossier donc iranien, il est classé, il peut passer à autre chose. Et ça, pour lui, c'est important parce que, eh bien, il y a eu son 80e anniversaire, il y a les 250 ans des États-Unis. Et puis, n'oublions pas, au mois de novembre, il a quelques élections qui sont importantes pour lui.
Avec une question aussi qui sont les conséquences économiques mondiales. Et puis, les Iraniens eux-mêmes, on les oublie dans cette histoire. Quelles conséquences pour la population iranienne?
Alors, en fait, les perdants, c'est la population iranienne. Souvenez-vous, au mois de janvier, cette répression épouvantable, plus de 30 000 Iraniens qui ont été massacrés par le régime. Donc, un soulagement certainement pour les Iraniens, mais néanmoins, le fait que le régime a survécu. Le seul point positif, on va dire pour nous Français, c'est que le prix donc du carburant à la pompe devrait baisser quand même assez rapidement, et ça c'est quand même quelque chose qui est bon pour notre économie.
Merci beaucoup Général Jérôme Pélisse-Randy d'avoir fait le point ce matin avec nous, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Il est 7h49 et il a passé la nuit à regarder les matchs. Louis Sarkozy, la voix de droite, c'est lundi. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
On en parlait dans le journal de 7h30, nuit de MMA à Washington, à la Maison Blanche. Faire rentrer un sport très violent à la Maison Blanche, ça vous choque pas, vous?
Non, pas du tout. C'était d'ailleurs une belle manœuvre politique. Et vous dites violent, mais le MMA contient aussi la violence, la discipline, et la transforme en art.
La fameuse catharsis, vous allez nous en parler dans un instant. Il est 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus. Mathieu, un rendez-vous parisien pour les fans d'Elton John.
Oui, alors pas un concert, pas cette fois. Une autre facette de l'artiste anglais qui s'expose à la galerie du Jeu de Paume. Les collections de photos d'Elton John que vous pourrez admirer, qu'il veut partager. Le chanteur collectionneur qui affirme posséder plus de 7000 œuvres. 300 là, sont exposées à Paris. 90 photographes internationaux, des photos d'art, portraits, photos de mode. Photos reportages aussi avec des clichés qui racontent la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, le 11 septembre, la guerre en Ukraine, à Gaza. La part belle aussi au combat pour les droits des homosexuels. 300 clichés qui seront affichés pour l'exposition fragile, beauté, donc désir, mode, célébrité, photojournalisme et question d'identité. Voilà pour le programme de cette expo, des tirages des années 50 jusqu'à aujourd'hui. C'était au musée du Jeu de Paume et c'est jusqu'à la fin de l'été, Elton John.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour,
cette
Apolline.
Nuit, la Maison Blanche a donc accueilli des combats de MMA. C'est une première dans l'histoire. Ça a de quoi choquer quand même l'esprit français. Mais vous, Louis, vous y voyez un acte politique.
Non seulement ça, mais sur le plan sportif, c'était magnifique. Une réussite totale, que j'ai d'ailleurs regardé toute la nuit, vous avez raison de le souligner, sur RMC Sport. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes. C'est le sport de combat le plus complet qui existe. On y mélange tout, la boxe, la lutte, le jujitsu, le judo, le muay thai, pieds, poings, corps à corps, combat au sol, deux athlètes dans une cage, des règles précises et l'éventail entier des arts martiaux réunis en un seul affrontement. C'est ça, le MMA.
Et alors hier, c'était le summum.
Ah, le summum. C'était pour célébrer les 250 ans de l'Amérique et accessoirement les 80 ans du président Trump. Et pour Trump, justement, qui est aujourd'hui, il faut le dire, en grande difficulté politique, cette nuit a un sens bien précis.
Vous y voyez aussi une manœuvre politique trumpiste.
Tout chez lui, tout chez cet homme est politique. Rappelez-vous 2024, Trump perdait les jeunes depuis toujours. Et là, son fils Baron, seulement 18 ans, étudiant à New York, lui souffle une idée. Va faire campagne sur les podcasts. Le résultat, tout le monde le connaît, l'interview avec Joe Rogan, le plus grand podcast du monde, a dépassé 52 millions de vues sur YouTube. Chez les hommes de moins de 30 ans, Trump est passé de 41% en 2020 à 56% en 2024. C'est 15 points. C'est ce qu'on appelle le bro vote. Si l'idée vient vraiment d'un gamin de 18 ans, c'est un vrai coup de génie. Les démocrates, eux, étaient quasiment invisibles chez les jeunes. Alors hier soir, en ramenant le MMA chez lui, Trump rappelle à cet électorat « Je suis votre président ». Et il en a besoin parce que sa cote chez les jeunes cette année s'est effondrée.
Le bro vote comme brother, en gros mon frère quoi. Alors le MMA c'est quand même un sport très très américain.
Mais le MMA est aussi un immense sport français. La France est surreprésentée dans les organisations mondiales. Regardez la carte d'hier soir en co-main event. C'est un peu le deuxième événement de la soirée. Pour la ceinture intérimaire des lourds, le Vendéen Cyril Gane. Et sa sublime victoire, un Français d'un talent fou qui gagne un titre mondial sur la pelouse de la Maison Blanche. Et derrière lui, toute une génération. Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot, Nassourdine Imamov, William Gomis. Même chez moi, figurez-vous, à Menton, une pépite, Alice Mikalkevitch, combattante professionnelle qui s'entraîne à l'Urban Sports Center et qui a déjà combattu au Zénith de Paris. De plus en plus de jeunes en France s'y mettent, de Paris à Menton,
bon,
partout.
C'est quand même un sport extrêmement violent, Louis.
Enfin, très violent. Regardez le football. Vous vous souvenez des violences après la victoire du PSG en Ligue des Champions ? Voiture brûlée, vitrine explosée, blessée.
Alors, c'était pas tout à fait sur le terrain quand même.
Mais on est bien d'accord, mais où sont les violences aujourd'hui par exemple ? On ne voit jamais ça avec les supporters de MMA. Alors oui, c'est un sport violent, je serai le premier à le dire. Mais pas seulement, c'est aussi une discipline, une technicité, une profondeur intellectuelle et surtout un sport qui est et qui a une vraie beauté.
Parfois difficile à regarder, il faut quand même le dire. Ou alors c'est... peut-être que vous allez vous moquer de mes chastes yeux.
Pas du tout, j'ai eu la même conversation avec ma femme qui d'ailleurs maintenant est accro. C'est vrai que ça peut être un sport cruel, aux conséquences individuelles terribles, des membres brisés, des traumatismes cérébraux avérés. Ces femmes et ces hommes sont d'une bravoure exceptionnelle. Ce sont les véritables gladiateurs des temps modernes. Aucun sport ne lui est comparable, ni dans sa gravité, ni dans l'excitation qu'il provoque.
C'est pas pour tout le monde quand même.
Est-ce que vous en êtes si sûr, Apolline ? Descendez de chez vous demain matin, mesdames et messieurs les auditeurs. Si vous voyez des gamins jouer au foot ou au basket, vous ne vous arrêterez pas 5 secondes. Mais si deux jeunes se battent dans la rue, tout le monde s'arrête. Tout le monde regarde. L'être humain a une obsession de l'affrontement, du combat, de la violence. C'est dans nos gènes. Faut-il rappeler l'immensité des combats de gladiateurs dans l'Antiquité ? Au Moyen-Âge, on achetait sa place pour voir les exécutions publiques. Cette pulsion existe. Elle a toujours existé. Le MMA ne la nie pas. Il l'encadre. Il lui donne une règle, une discipline, une technicité. Il la transforme en art. Voilà pourquoi les organisations de MMA décollent partout, et particulièrement en France. Et voilà pourquoi, en tout cas pour moi, c'est le plus beau sport du monde.
Donc la violence contrôlée sur un terrain.
Discipline.
Et en l'occurrence dans une cage. Déclaration d'amour donc de Louis Sarkozy au MMA ce matin. Et je rappelle que la soirée MMA elle a été diffusée cette nuit effectivement sur la chaîne RMC Sport 1. Merci Louis. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une Donald Trump qui qui va donc arriver aujourd'hui en France. Il devrait décoller dans moins d'une demi-heure des États-Unis, direction Évian-le-Bain. Nous serons en direct sur place. Et puis dans un instant, la météo, Géraldine nous le dira. La semaine s'annonce extrêmement chaude. À tout de suite, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59 sur RMC, RMC Story, c'est le soleil et la chaleur au menu, bien sûr, Géraldine.
La chaleur qui va vraiment s'intensifier dans les prochains jours. Là, on est au tout début avec des températures qui ont déjà augmenté ce matin sur le sud-ouest. On a déjà une nuit quand même parfois assez difficile avec plus de 20 degrés. Cet après-midi, on ira jusqu'à 35 degrés à Montpellier, à Perpignan, 34 à Bordeaux, il fera 33 degrés à La Rochelle, à Nantes, à Toulouse aussi, Paris, 30 degrés pardon, à Paris et à Lyon, 28 à Marseille, 21 en revanche pour Lille, on a un peu de fraîcheur près de la Manche. Beaucoup de soleil, quelques grisailles quand même vers les côtes bretonnes, mais également Aquitaine ou de la Méditerranée. Quelques orages aussi essentiellement sur le relief. Et puis donc cette chaleur qui va monter d'un cran, surtout à partir de mercredi, où là vraiment on va rentrer dans une période de canicule. Mercredi, on aura des températures souvent comprises entre 32 et 36 degrés sur le pays. Jeudi, on devrait aller jusqu'à 38 à Bordeaux, 37 à Lyon, 36 à Paris. Et il fera très chaud au minimum jusqu'en début de semaine prochaine.
Il est 8h, très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un pas vers la paix. Washington et Téhéran confirment un accord à l'aube d'un sommet du G7 qui devrait servir à peaufiner les derniers détails avant la signature prévue vendredi à Genève. La philo au programme des futurs bacheliers qui viennent de soulever leur copie à l'instant alors qu'on attend de fortes chaleurs. Cette semaine, en plein bac, le gouvernement propose de mettre fin aux épreuves l'après-midi dès l'année prochaine. Et le compte à rebours est lancé à J-1 du premier match des Bleus à la Coupe du Monde face à des Sénégalais déterminés. RMC s'est rendu à Dakar. Reportage dans ce journal.
Donald Trump attendu en France cet après-midi.
Après avoir organisé cette nuit un combat de MMA à la Maison Blanche pour ses 80 ans, le président américain va s'envoler donc pour le G7 à Évian. Le sommet prend une toute autre dimension cette année en raison de l'accord de paix confirmé hier soir par les États-Unis et l'Iran. Les deux parties ont prévu de se retrouver vendredi à Genève pour une cérémonie de signature. Romain Cluzel, service politique RMC, nous rejoint. Certains détails doivent encore être réglés. Ils seront sur la table du G7, Romain. Et même dès cet après-midi, 17h30 à l'occasion d'une rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron.
Et Emmanuel Macron compte insister sur deux points. D'abord, la sécurisation du détroit d'Ormuz après l'annonce de l'accord. Donald Trump s'est réjoui d'une réouverture pleine, sans droit de passage pour les bateaux. Mais le détroit reste dangereux. Les Iraniens ont installé de nombreuses mines depuis le début du conflit. C'est pourquoi Emmanuel Macron, accompagné du Premier ministre britannique et d'autres pays, propose une coalition pour permettre aux bateaux de franchir le détroit dans les prochains jours et les prochaines semaines. Une condition indispensable à la stabilité régionale et à l'économie mondiale, insiste le président. Et puis Emmanuel Macron veut s'assurer que la fin du conflit s'applique pleinement au Liban. Le chef de l'État réclame un cessez-le-feu robuste et durable pour que le pays retrouve sa souveraineté territoriale. Encore hier, avant l'annonce de l'accord, Israël a bombardé le sud de la capitale Beyrouth et on attend toujours ce matin la réaction de Benjamin Netanyahu à cet accord. Le président français compte aussi évoquer avec Donald Trump les négociations qui s'ouvrent désormais entre États-Unis et Iran, notamment sur le programme nucléaire iranien.
Donald Trump et les autres dirigeants du G7 attendus pour 3 jours au bord du lac Léman à Évian, je vous le disais, barricadés, placés sous très haute sécurité. 16 000 policiers et gendarmes sont déployés sur place pour l'occasion. Rachel Sadoudine, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC sur place et en direct ce matin dans cette ville de 10 000 habitants quasiment coupée du monde sous cloche.
On n'a jamais aussi bien entendu le chant des oiseaux dans le centre-ville d'Évian. Quasi aucune voiture, hormis quelques patrouilles de police, de gendarmerie. Et pour cause, il faut un laissez-passer avec un QR code pour entrer dans la ville. Benoît, responsable d'une boulangerie, n'avait pas vu ça depuis le Covid.
La ville d'Évian est morte, en tout cas de clients. C'est-à-dire personne dans les rues ou très peu. Et de ce fait, on a une perte d'exploitation à peu près de 50 à 60% par rapport à d'habitude.
Pour limiter la casse, beaucoup de commerces ont renoncé à ouvrir pendant ce G7. Pas mal de grilles fermées autour de moi, mais les hôteliers, eux, s'en sortent bien comme Séverine.
Dans une petite bulle. En vrai, c'est une période super sympa à vivre en tant qu'habitant. En tant que commerçant, c'est différent. Les hôteliers, on s'en sort bien parce qu'on a toutes les délégations, tous les journalistes à loger, donc on s'en sort bien au niveau de l'hôtellerie. Bon, on circule dans les vies encore mieux qu'avant. Non, c'est vraiment une bulle de plaisir.
Le plaisir, pas sûr qu'il soit partagé par les élèves de terminale. Le lycée d'Évian étant fermé, le périmètre bouclé, eh bien, ils ont dû prendre le bus très tôt ce matin, escortés par les forces de l'ordre direction Thonon-les-Bains pour leur épreuve de philosophie du baccalauréat qui vient d'ailleurs de débuter.
Rachel Sadodine, en direct d'Evian ce matin pour RMC. La guerre au Moyen-Orient, donc ses conséquences aussi, on vous en parle régulièrement dans ce journal. C'est le cas des prix des carburants. Si les cours du pétrole repartent à la baisse sous les 85 dollars ce matin, il faudra encore du temps avant de voir les effets à la pompe. Et pour des milliers de Français, il faut continuer à vivre, travailler, parfois le ventre vide. C'est le cas pour une majorité de travailleurs précaires, des CDD, intérimaires ou encore temps partiel, vivant sous le seuil de pauvreté, contraints de restreindre leur quantité de nourriture. C'est le résultat d'une étude Ipsos pour le réseau d'épiceries solidaires andaises que vous révèle RMC ce matin. Et pour 40% de ces travailleurs pauvres, sauter un repas n'est pas un choix. Solène Leroux a pu s'en rendre compte à Paris.
Au sein de ce jeune couple, le seul salaire fixe, à peine 1500 euros par mois, c'est celui de Mitya, vendeuse, compliqué de faire des courses convenables.
Des fois, j'ai des envies de bonnes salades, de bons fruits. Et quand je vais voir le prix, ça me donne même pas envie de manger. Quand tu payes le loyer, les charges et tout ce qui s'ensuit. Deuxième semaine, on commence déjà à manger des pâtes. Hein.
Beaucoup de féculents, c'est presque la routine pour 70% des travailleurs pauvres. Shehrazade a beau être employée dans un restaurant scolaire, c'est difficile de nourrir ses deux enfants.
Les salaires ne bougent pas, l'avion, tout ça, ça coûte très très cher. J'ai mangé assez, oui. Quand il y a des bons trucs, je les donne à mes enfants. Je préfère mes enfants avant moi.
Je suis Thierry, je suis trésorier de Solidaya, donc il y a une épicerie.
C'est un lieu où les personnes dans le besoin peuvent faire des courses à bas prix. Environ la moitié des bénéficiaires ont un travail.
Des personnes en CDI, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, on ne voyait pas encore. Mais là, on a de plus en plus de gens qui ont un emploi. Simplement, ça ne leur permet plus de vivre correctement.
La solidarité nationale, on ne la voit pas forcément, dit-il. Plus de 4 travailleurs pauvres sur 5 se disent abandonnés par les pouvoirs publics.
RMC 8h05, attention au coup de chaud. Avec la hausse des températures attendues en milieu de semaine, on pourrait dépasser les 30 degrés ce lundi par endroit. Et c'est dans ces conditions que débutent les épreuves du bac. La première, elle a déjà commencé pour 530 000 bacheliers concentrés sur la philo depuis maintenant 5 minutes. Et justement, la question de la chaleur pendant les épreuves, elle fait débat. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, veut y mettre fin l'après-midi à partir de 2027. Décision un peu tardive, selon Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU.
Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du bricolage. C'est-à-dire que là, on a un ministre qui, 3 jours avant, se dit « Ah bah tiens, peut-être qu'il faudrait mettre les épreuves que le matin. » C'est pas 3 jours avant qu'on arrive à gérer une canicule. On sait très bien qu'on est face à un réchauffement climatique et que ça nécessite pas seulement une adaptation des horaires, mais une adaptation du bâti scolaire. Il y a eu des coupes budgétaires dans les fonds qui sont dédiés à la rénovation du bâti scolaire. Donc le signal est très clair. Le gouvernement n'a visiblement pas grand-chose à faire du fait qu'on passe maintenant des jours, voire des semaines, dans des bouilloires thermiques. Et c'est absolument scandaleux.
Sophie Vénétité, invitée d'RMC ce matin. L'appel à de nouveaux rassemblements devant les tribunaux du pays ce soir pour réclamer une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le sillage de l'affaire Liana. On est à J-1 de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les hommes de Didier Deschamps ont quitté Boston pour New York. C'est là qu'ils vont affronter le Sénégal demain 21h sur RMC. 24 ans que les deux nations ne se sont pas affrontées. C'était en 2022. Les Bleus n'en gardent pas un bon souvenir. À l'inverse, des Sénégalais sûrs de leur force cette année encore. Nos équipes se sont rendues à Dakar pour RMC. Arnaud Valadon.
Oui, et au Sénégal, ce match face aux Bleus sera l'événement le plus regardé de l'année à la télévision par des supporters qui affichent une confiance débordante.
Ça sera chaud parce que c'est France et Sénégal, mais à la fin, on sait qui sortira vainqueur.
Et c'est qui ?
C'est le Sénégal, c'est clair, mec, c'est clair, c'est le Sénégal.
Impossible de ne pas sénégalais. Avec cette belle équipe que nous avons, moi, l'objectif que j'ai dans ma tête, c'est tout simplement aller conquérir le monde et on va se donner les moyens pour.
Et si l'équipe nationale marche bien, c'est grâce à ses jeunes joueurs, selon Mohamed, entraîneur au club de Dakar Sacré-Cœur.
La formation qu'on a eu à cette décennie-là nous a fait du bien. Les clubs formateurs comme le nôtre et les autres académies font du bien à l'équipe nationale.
Pour Adam Akandé, journaliste à 2S TV, deuxième chaîne de télé du pays, tous les Sénégalais ont encore en mémoire la victoire 1-0 contre la France en ouverture du Mondial 2002.
Elle a permis cette Coupe du Monde de révéler des joueurs parce que beaucoup ont eu des contrats en Angleterre. Donc on ne peut pas oublier de sitôt cette année 2002. Donc tout ceci réuni fait qu'aujourd'hui, vous avez vu même dans l'attelage technique de l'équipe nationale, il y a beaucoup de joueurs de 2002 qui sont là.
C'est par exemple le cas de Pape Thiaw, l'actuel sélectionneur qui compte bien rééditer l'exploit face aux Bleus demain soir.
Et oui, le dernier France-Sénégal, c'était en 2002. Et ce sera demain, 21h, sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, avec le début ce soir de la Belgique. Cette nuit, la Suède a battu la Tunisie 5-1. Les Pays-Bas font match nul face au Japon 2-2. À retenir aussi le succès écrasant de l'Allemagne face aux novices du Curaçao, 7-1.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h08 et c'est l'heure d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
Salut Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Le Chypre, les États-Unis et l'Iran ont donc signé cette nuit un accord de paix. Quelles conséquences pour l'économie mondiale?
Eh bien, à peu près les mêmes, Apolline, que lorsqu'on fournit une bonbonne d'oxygène à un déficient respiratoire. L'effet immédiat, c'est la chute des cours du pétrole. 5% en une nuit pour tomber à 82 $ le baril. C'est du jamais vu depuis le 3 mars. Même chose sur les cours du gaz, plus de 10% de baisse en une nuit. Une énergie moins chère et puis la perspective aussi d'une réouverture du détroit d'Ormuz qui va permettre de réapprovisionner le monde en engrais, en plastique, en aluminium, en produits chimiques, en méthanol. Eh bien, tout ça signifie moins d'inflation pour tout le monde. Moins d'inflation, c'est des taux d'intérêt plus bas. On a vu les taux d'intérêt à 10 ans américains retomber à leur plus bas niveau depuis 2 mois. Et ça veut dire aussi que les banques centrales vont avoir moins besoin de durcir les conditions du crédit dans les prochaines semaines. Tout ça, au final, est positif pour la croissance et éloigne la perspective d'un scénario noir. Accord donc vraiment salué par les marchés financiers cette nuit qui, pour le moment, ne veulent pas voir les accidents qui pourraient encore se dresser sur la route d'un accord parfait.
Tout ça, c'est au niveau mondial et pour nous, Français.
Alors, c'est d'abord à la pompe que nous allons gagner. Hein. Si cet accord est vraiment signé, ça veut dire 15 centimes sans doute de baisse sur un litre qui s'afficherait du coup entre 1,80 et 1,85 d'ici 15 jours, 3 semaines. Notre facture de gaz va aussi baisser au cours des prochains mois. Le recul des matières premières, c'est bon pour les comptes de nos entreprises et on pense particulièrement aux agriculteurs qui vont pouvoir se réapprovisionner en engrais. Cet accord est aussi positif pour les dépenses publiques puisque ça signifie moins d'aide et plus de croissance, donc plus de recettes fiscales. Après, la France, on se réjouissait qu'elle soit un des pays les moins impactés grâce à son énergie nucléaire à cause du fait qu'elle n'est pas particulièrement exportatrice par rapport à l'Allemagne, par exemple, et que donc la perturbation du commerce mondial ne l'affectait pas trop. Donc, évidemment, l'effet rebond sera peut-être plus faible qu'ailleurs.
Avec, évidemment, les premiers effets qui se font sentir, ça monte ou ça descend, les chiffres du jour, comme chaque jour.
Alors, sur les carburants, bah évidemment, la baisse, on la voit pas encore. Hein. 1,99 le litre de gazole, ça baissait un tout petit peu. Le sans-plomb 95, il est toujours stable à 1,95 € le litre. Mais le pétrole, on a une forte chute, 10 $ de baisse en 5 jours. On est à 82. Et puis le gaz, forte détente aussi, hein, 44 €.
Avec cette baisse pardon, du pétrole, ça veut dire que ça devrait se ressentir quand à la pompe?
Ah bah ça se ressentira dès la fin de la semaine là, dès cette semaine. Et puis après, on peut espérer que l'intégralité de la baisse sera répercutée dans les 15 jours. Mais il faut voir si la baisse du pétrole se poursuit elle aussi. L'objectif raisonnable qu'on peut avoir, c'est de se dire, bah, si on rouvre le détroit d'Ormuz, on retrouve les conditions du marché du pétrole d'avant la guerre. C'était plutôt un marché en surproduction. Ça veut dire qu'on peut retrouver les prix des carburants d'avant le conflit. Allez, peut-être pas pour les juilletistes qui partiront les premiers, mais au moins pour les Haoutiens.
C'était donc Emmanuel Le Chypre, il est 8h11.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est tombée.
Il est 8h12, restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demange va venir nous faire rire dans l'actualité à 8h30, le face-à-face. Mon invité, c'est l'ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle, Gabriel Attal. J'interrogerai évidemment sur l'accord entre l'Iran et les États-Unis, les conséquences pour la France, mais aussi sur son fameux principe, vous vous souvenez, tu casses, tu payes. Eh bien, Sébastien Lecornu est prêt à le mettre en œuvre concrètement. Il a promis une loi depuis hier soir. On en parle avec Gabriel Attal, donc qui est mon invité à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, 8h50, on reviendra sur le choix de la rédaction et cette information RMC. Plus de 500 permis de conduire suspendus depuis le début de l'année pour un téléphone au volant. Ce sera en direct à 8h50.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15, Arnaud Demange, pour notre plus grand plaisir, est avec
oui,
nous. Salut Arnaud.
C'est l'heure des blagues, avant une nouvelle semaine de blagues, que des blagues, là ça va être super. Alors si, non, il y a quand même un tout petit truc les amis, je suis désolé, avant de parler d'actu, j'ai une nouvelle un peu triste pour vos mamans. Franck Michael est décédé. Vous connaissez Franck Michael? C'était le chanteur préféré des vieilles dames, le crooner des EHPAD, le Patrick Bruel des mamies, mais avec un slip. C'était le womanizer de vos daronnes. Et alors en grand professionnel, il a attendu le décès de sa dernière fan, Bernadette Chirac, pour partir.
C'est très élégant.
Vous voyez, c'était un homme simple. C'était un gars qui faisait pas de selfie. Ceci dit, on a quand même retrouvé un dessin de lui avec une groupie sur les murs de la grotte de Lascaux.
Voilà.
Alors, son plus gros tube, je l'ai découvert ce week-end, c'est « Toutes les femmes sont belles ».
Toutes les femmes
C'était vraiment fait pour flatter la clientèle, hein. C'est parce que c'est un peu faux cul comme titre. C'est un peu comme si Michael Jackson avait chanté « Tous les garçons sont majeurs ». Bref, beaucoup de succès pour ce monsieur pendant 40 ans, mais malheureusement, aucune standing ovation.
Ginette, aide-moi à me lever. Mais j'y arrive pas non plus.
Mais l'actu, c'est la politique internationale, Apolline. Voilà, the international politics. Votre kiff, c'est le G7 qui débute aujourd'hui à Évian. Le G7, c'est la Coupe du Monde des chefs d'État.
Oh, les champions, on est tous ensemble.
Que de souvenirs, hein. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et 6, et 7, et ta Trump sera en France.
Ah ouais.
Ramenez le plouc de la maison.
Et alors là, il n'y a pas la Jordanie et le Curaçao, il y a l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie. Et zut, ça fait 6, il en manque un.
Mais il y a moi aussi. Je suis puissant, moi aussi. Je fais partie des pays puissants.
Non, Emmanuel Macron. Quand on est puissant, on arrive à faire passer des lois. On n'est pas esclave du bon vouloir d'Olivier Faure, en fait. Alors, le G7 à Évian, c'est la seule réunion internationale où l'eau est plus plate que les discours.
Voilà.
D'ailleurs, on connaît un peu le programme du G7. C'est la même chose à chaque fois. C'est jour 1, il faut agir. La situation est grave. Jour 2, il faut agir. La situation est grave. Jour 3, bon, on a posé les beaux diagnostics, je pense. On en reparle au prochain sommet. Allez, à l'année prochaine. Avant le G7, il y avait eu le G20. C'est la même chose. Les dirigeants, ils parlent tous un peu dans le vide, comme ça. C'est les monologues du G20. Tous les regards seront tournés vers Donald Trump. Le président américain, il est tout content. Il a obtenu un accord avec l'Iran. La réouverture du détroit d'Ormuz est proche. Mais alors, peut-être avec un péage. Vous avez vu ça? Avant la guerre, c'était gratuit. Mais maintenant, il y aura un péage grâce à lui. Trump, c'est un peu comme s'il débarquait un anniversaire où le gâteau est gratos, il te casse la gueule et il t'oblige à lui faire payer une part. Voilà. Très bizarre. D'ailleurs, cette nuit, c'était son anniversaire. 80 ans pour Donald Trump, c'est historique. C'est le premier président américain dont l'âge dépasse le QI. C'est beau. Et il s'est offert plein de trucs. Il y avait un spectacle de motocross, des combats de MMA. Il manquait juste du tuning. En fait, Trump, il est né dans le Nord-Pas-de-Calais, on le savait pas. Oh, tu es un Bilouts. I love the Bilouts. The great Bilouts. Bilouts are great. Là, le combat vient de se terminer. Trump, il va monter sur scène avec une mitraillette en or. Il va tirer des rafales en l'air. Après, il va manger un gâteau en forme de nichon avant un concert de Patrick Sébastien avec Mélania. Mélania, dis poète, camion. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Sur CNews, la chaîne du distingué Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignan, ils vont être là. Quel spectacle fabuleux. Une leçon d'élégance, c'est autre chose que Thomas Joly. Regardez, Afida Turner qui sort d'un gâteau. C'est admirable, n'est-ce pas, Christine Kelly? Oui, tout à fait. Pourquoi Emmanuel Macron n'organise-t-il pas le 14 juillet en faisant défiler nos armées sur Big Bisou et la compagnie créole? Oh oui, Big Bisou, Big Bisou, regardez, l'anniversaire de Trump continue avec ce défilé de chanteurs de country qui font des doigts d'honneur à une photo d'Obama. C'est merveilleux. J'exagère à peine en plus. Vous avez vu, il y a un des combattants qui a pris le micro pour dire Michelle Obama est un homme.
Non.
C'était la fête. C'est vrai.
À la maison blanche.
Bref, Trump se prend pour César avec des jeux du cirque. Il va finir par donner des journalistes à bouffer aux lions. Heureusement que chez nous, on fait pas ça, hein. Tenez les lions, voilà David Pujadas. Il n'y a rien à bouffer là-dessus. Mais bon, non mais c'est lunaire. Qui organise des combats à main nue dans des cages pour son anniversaire? Apo, pour vos 35 ans, vous ne ferez pas ça quand même.
Non, c'est vrai.
Vous n'allez pas mettre Mathieu et...
Je serais bien.
Ben non, vous n'allez pas mettre Mathieu et Élise dans une cage. C'est quand même particulier.
Non, je ne l'avais pas prévu.
C'est ça qu'ils sont coincés dans le supplément.
Oh,
après, on sait que Trump, c'est un grand fan de MMA. Enfin, je veux dire... Déjà, allez, battez-vous!
Bagarre!
Non, mais c'est un grand fan de MMA, Trump. Des gens torse nu, en sueur, et le gagnant immobilise le vaincu au sol. Ça lui rappelle les soirées avec les mannequins sur l'île d'Epstein. C'est quand même fun pour lui. Allez, bon lundi.
À demain. Ah ouais, c'est bien parti cette semaine.
Bisous.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie. Aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h20. Philippe nous appelle de Gironde. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Apolline, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait, c'est moi. Allô, bonjour. Voilà. Vous êtes bien sur RMC.
Oh, chouette.
Philippe, cela dit, je vous ai au téléphone, mais vous vous l'êtes fait suspendre votre permis, vous étiez au téléphone au volant ou pas du tout?
Non, moi ça m'est pas encore arrivé. J'ai eu une suspension, mais il y a plus de 20 ans, mais pour d'autres raisons.
Parce que Philippe, je reprécise effectivement que c'est donc 500 permis qui ont été suspendus. C'est une info RMC depuis que les Landes ont mis en place ce système suspendu entre 15 jours et 6 mois, hein, le permis pour le téléphone au volant. Vous avez échangé avec les gendarmes, vous êtes chauffeur poids lourd, Philippe?
Oui, tout à fait. Je suis chauffeur poids lourd et il y a quelques temps de ça, j'étais du côté d'Arles et à la sortie de l'autoroute à 54, comme fallait que je m'arrête, on est profité pour aller les voir, pour leur poser la question parce que j'entendais tout et n'importe quoi. Ouais. Et ils m'ont bien dit, l'utilisation du téléphone, on ne l'interdit pas. Ce qu'on interdit, c'est que les gens l'aient en main en discutant.
S'il est en Bluetooth, comme on dit, ou même sur une oreillette, c'est bon.
Non, l'oreillette, c'est interdit.
Ah, ok. Seulement Bluetooth.
AirPod, c'est interdit. Vous pouvez téléphoner, mais vous ne touchez pas au téléphone.
Ok. Donc,
si vous avez une voiture qui est équipée.
J'allais dire les mains en l'air, mais non, en fait, les mains sur le volant. Surtout pas les mains en l'air. Merci beaucoup. Merci, Philippe, d'être passé par le 32-16. Comme Philippe, vous n'hésitez pas. À tout moment, vous nous appelez au 32-16. Il est 8h22. Dans un instant, c'est le face-à-face. Je file sur BFM TV en plus d'RMC. Et mon invité, c'est Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre et désormais candidat à l'élection présidentielle. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ancien Premier ministre, bien sûr, et désormais candidat à l'élection présidentielle. De très nombreuses questions à vous poser ce matin sur la politique en France, les suites de l'affaire Liana, le tu casses, tu payes, tu salis, tu répares, qui est en train peut-être de se mettre en place. Mais d'abord, bien sûr, votre réaction à l'accord de paix cette nuit. Donald Trump qui dit, ça y est, l'accord avec la République islamique d'Iran est désormais achevé. Félicitations à tous. J'autorise par la présente l'ouverture gratuite du détroit d'Ormuz. Simultanément à cela, j'autorise la levée immédiate du blocus naval des États-Unis. Navires du monde, démarrez vos moteurs. Laissez le pétrole couler. Est-ce que, ça y est, vous l'accueillez avec soulagement?
Il faut être pragmatique dans ces affaires. Quels sont les intérêts de la France? Les intérêts de la France, c'est évidemment que la guerre s'arrête, notamment pour des raisons économiques. On a vu l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz sur l'économie internationale et notamment sur l'économie française, le prix du carburant pour les Français. Et puis, il faut être lucide. On a vu des atermoiements par le passé. On a vu des protocoles, des projets qui n'allaient pas à leur terme. Il faut être lucide aussi sur l'impact à plus long terme, sur la sécurité régionale et évidemment le fait que le régime des Mollahs ne peut pas être mis sur un piédestal alors qu'on parle d'un régime évidemment qui tyrannise son peuple, qui l'a réprimé dans la barbarie et dans le sang.
Donc pour vous, la vigilance sera aussi sur ce que fera l'Iran?
Il y a toujours une vigilance à avoir, bien sûr. D'abord sur les suites qui seront données à ce préaccord qui a été signé. Et ensuite, évidemment, sur l'avenir. Quelles seront les conditions de sécurité qui auront été trouvées dans cet accord? Est-ce que ce sera mieux que la situation précédente avant la guerre? Vous savez, quand cette guerre a été déclenchée par Donald Trump, je m'étais exprimé en expliquant que cette guerre ne pouvait avoir du sens que s'il y avait un véritable plan pour libérer le peuple iranien et désarmer le régime des Mollahs. On verra si sur le désarmement du régime des Mollahs, l'accord permet d'y parvenir. En tout cas, sur la libération du peuple iranien, force est de constater qu'aujourd'hui, on a un peuple qui est toujours tyrannisé et martyrisé.
Emmanuel Macron a salué cet accord. Il devrait accueillir dans les heures qui viennent un certain nombre de chefs d'État, évidemment avec le G7, mais Donald Trump en particulier, qui s'apprête à décoller du sol américain pour rejoindre le G7 à Évian. Quel doit être le rôle de la France désormais?
Moi, je pense que le rôle de la France, ça doit être de participer aux discussions qui sont ouvertes pour garantir que cet accord puisse s'appliquer. Et ça doit être de participer à la libération, à l'ouverture du détroit d'Ormuz. La France avait pris une initiative que j'avais saluée avec notamment le Royaume-Uni et un certain nombre d'autres pays pour organiser une force conjointe pour participer à la libération et à la sécurisation du détroit d'Ormuz une fois qu'un accord aurait été conclu. Si l'accord est conclu, évidemment que la France doit pouvoir participer à cette sécurisation pour que le commerce international puisse reprendre dans de bonnes
conditions. La France a un rôle à jouer, en particulier là, dans les trois jours qui viennent autour de ce G7 et jusqu'à mercredi soir à Versailles avec ce dîner avec Donald Trump.
La France a toujours un rôle à jouer. D'abord, c'est sa mission, c'est son destin. Et ensuite, vous l'avez dit, cette semaine se tient le G7 en France. Et évidemment, sur la question iranienne, mais pas seulement. Sur la question ukrainienne, je rappelle qu'il y a toujours la guerre en Ukraine, que cette nuit il y a eu des tirs de missiles de la Russie sur Kiev et sur l'Ukraine. Sur un certain nombre d'autres désordres internationaux, la France a évidemment un rôle majeur à jouer.
La question aussi des conséquences économiques, finalement, si le pétrole il a baissé évidemment cette nuit, sans que ça n'ait pour l'instant de conséquences à la pompe, mais si le pétrole continue de baisser et si l'on revient effectivement à des prix à peu près convenables ou raisonnable, est-ce qu'il aura donc été finalement la bonne décision de ne pas faire de baisse sur les taxes ?
Moi, ce que j'avais demandé, en tout cas ce à quoi j'avais appelé, c'était à une aide ponctuelle et ciblée sur ceux qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Et c'est ce qui a été proposé, c'est ce qui a été fait. Après, on peut toujours discuter des critères, etc. Mais j'ai fait partie de ceux qui appelaient à ce qu'il n'y ait pas de mesures générales très coûteuses, parce qu'à la fin, et les Français, je pense, le savent maintenant, à la fin, les Français finissent toujours par le payer. Quand il y a des aides extrêmement importantes qui sont mises en place, ils le payent en impôts supplémentaires ou ils le payent en dette à plus long terme pour leurs enfants.
Donc le choix a été le bon d'attendre.
Oui, bien sûr, moi j'avais salué cette décision qui avait été prise.
Gabriel Attal, retour en France avec de très nombreuses questions. Mais d'abord, ce qu'a annoncé Sébastien Lecornu tard hier soir, qui semble répondre un peu à votre « tu casses, tu payes », qui avait été cette formule que tout le monde retient de votre discours de politique générale. Sébastien Lecornu l'annonce donc cette nuit. Après les violences et les destructions qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions, le gouvernement présentera dès juillet en Conseil des ministres un projet de loi visant à faire assumer directement aux auteurs le coût des dégradations commises dans l'espace public. L'idée, c'est aussi une responsabilité collective, c'est-à-dire que si vous participez avec un groupe à de la détérioration, à des pillages, au fait de casser des abribus ou des morceaux de rue, eh bien l'ensemble, tant pis que vous ayez vous-même jeté un pavé ou pas, l'ensemble sera tenu pour responsable, y compris financièrement.
Bien sûr, moi je salue cette proposition qui a été faite et avec mon groupe parlementaire, on l'accompagnera à l'Assemblée. Vous l'avez rappelé, quand j'étais Premier ministre, j'avais affirmé dans ma déclaration de politique générale qu'il fallait en revenir à « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». J'avais rédigé un projet de loi en ce sens avec mon gouvernement. La dissolution l'avait interrompue. C'est une mesure qui vient quelque part concrétiser en partie ce à quoi j'avais appelé. J'avais réussi à faire passer une mesure et j'ai vu que certains préfets sont en train de l'appliquer, ce qui est une bonne nouvelle. C'est la possibilité de rendre les parents responsables financièrement des actes qui sont commis
par
leurs enfants. Bien sûr, je l'ai fait voter. Cette mesure, je l'ai proposée comme je suis revenu au Parlement en tant que député avec mon groupe. On a fait adopter cette mesure et j'irai même plus loin. Dans le droit précédent, il était dit que c'était le parent chez qui l'enfant réside qui était responsable des dégâts commis par un délinquant mineur. Bien souvent dans ces situations-là, c'est des familles monoparentales, c'est une mère seule qui parfois est dépassée par les événements et il y a un père qui est parti, qui se préoccupe pas de ce qui se passe avec son enfant. La loi que j'avais changée permet maintenant de rendre responsable, y compris le père, même s'il est parti depuis des années, ce qui permettra aussi peut-être d'impliquer un certain nombre de pères dans l'éducation de leurs enfants et dans la lutte contre la délinquance.
Donc la question des pères, la question des parents, la question des prestations sociales, Sébastien Lecornu précise donc dans le projet de cette loi, les prestations sociales pourront également être sollicitées dans des conditions prévues par la loi, avec vraiment l'idée aussi que ça puisse durer sur des années, l'idée qu'il y ait une petite somme peut-être régulière pendant longtemps, qui soit prélevé sur les visiblement sur les prestations sociales, soit prélevé sur les futurs salaires s'il s'agit de jeunes.
Oui, bien sûr, c'est dans la lignée de ce pourquoi je plaide et de ce que nous avions prévu de faire avec mon gouvernement. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Encore une fois, c'est très difficile aujourd'hui quand vous avez des manifestations, vous avez quelques personnes qui sont identifiées, d'établir leur lien entre les personnes qui ont été interpellées et les dégradations qui ont été commises. Là, il s'agit de dire, si jamais vous avez participé à un attroupement qui était interdit, qui a donné lieu à des dégradations, vous êtes solidairement avec les autres personnes qui ont participé, tenus responsables. Et si vous n'avez pas les moyens de rembourser ou de payer des amendes très élevées tout de suite. Ça se fera de manière échelonnée sur du plus long terme, mais l'essentiel, c'est que les gens soient tenus responsables de leurs actes.
Avec une question quand même, Gabriel Attal, c'est que ça existait jusqu'en 1981, ça a été aboli, supprimé par l'arrivée de François Mitterrand, parce que on considérait que cette responsabilité collective, eh ben, elle niait une éventuelle non-responsabilité individuelle de certains qui se trouveraient là un peu par hasard.
Je pense que ceux qui d'abord sont identifiés comme immédiatement en lien avec les dégradations seront toujours tenus davantage responsables que les autres. Et la deuxième chose, Apolline de Malherbe, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une forme de phénomène de masse. Je veux dire, on peut pas accepter maintenant qu'à chaque victoire, que ce soit le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France ou je ne sais, qu'à chaque victoire, on anticipe à l'avance, on sait déjà à l'avance qu'il va y avoir des dégradations. Comme si finalement on avait intégré cette situation. Et donc on doit revoir notre arsenal. Et peut-être que si un certain nombre de lois n'avaient pas été supprimées, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui en termes malheureusement de délinquance dans ces situations.
Justement, justice et autorité, une question aussi sur les suites du drame de la mort de Liana. Vous avez proposé immédiatement un certain nombre de décisions, comme par exemple la suppression du juge d'application des peines, estimant qu'une peine qui a été énoncée doit être appliquée telle quelle. Et puis un certain nombre d'idées, notamment effectivement que les pédocriminels soient jugés ou considérés presque comme des terroristes. Et dans un entretien au Figaro que vous aviez dit ce matin, Édouard Philippe dans Le Parisien vous répond. Il est interrogé par mes confrères qui leur demandent s'il est d'accord avec votre proposition. Voilà la question. Gabriel Attal veut aligner le traitement des pédocriminels sur celui des terroristes. Êtes-vous d'accord? Et voilà la réponse d'Édouard Philippe. Je comprends que face à l'émotion, on cherche la formule choc pour montrer sa détermination, mais ce parallèle traduit une forme d'incompréhension de ce que c'est que la pédocriminalité. Criminalité, comment vous réagissez? Vous comprenez rien.
Moi, je veux pas faire de la politique politicienne sur un sujet comme celui-là. Ce que j'ai dit, c'est qu'on doit appliquer le même suivi aux pédocriminels que celui qu'on applique aux terroristes. Ce que j'ai dit, c'est que on a bâti une organisation dans les services de l'État et les services judiciaires sur la question du terrorisme, avec un parquet national de lutte contre le terrorisme, avec ensuite toute une chaîne pénale qui est adaptée et un suivi qui est adapté. Je propose de faire la même chose. Je propose un parquet national contre la pédocriminalité et d'une manière générale les violences sexistes et sexuelles pour le haut du spectre, le haut du réseau. Et ensuite, je propose effectivement que dans la chaîne pénale, on organise les choses en matière de suivi, en matière de culture de l'urgence, comme on le fait sur la question du terrorisme. Ce qu'il faut, Apolline de Malherbe, c'est que quand il y a une plainte, il y ait immédiatement un acte de procédure en moins de 48 heures.
Mais est-ce que vous réagissez face à l'émotion en cherchant la formule choc?
D'abord, je pense que tous les Français ont été non seulement émus, mais bouleversés par ce qui s'est passé. Ensuite, moi, ça fait plus d'un an que je fais des propositions. Il y a un an, j'ai fait un certain nombre de propositions sur les questions de justice. C'est des propositions que je reprends aujourd'hui. J'ai pas attendu, évidemment, un drame pour faire un certain nombre de propositions. Mais voilà, en tout cas, ce qui est certain, et je pense que les Français en sont conscients avec ce drame, et surtout le fait qu'il aurait pu être évité, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle justice. On doit garder les grands principes de notre droit et de notre justice, mais on doit avoir une nouvelle organisation de notre système judiciaire pour plus de fermeté et pour un certain nombre de priorités, comme la lutte contre la pédocriminalité, évidemment un suivi particulier.
Vous mettez une sorte de parallèle en effet entre la manière dont il faut traiter la pédocriminalité et le terrorisme. Il y a eu un grand débat autour des attentats à partir de 2015 en France sur la question de est-ce que les radicalisés pouvaient être déradicalisés? Est-ce qu'on pouvait traiter? Est-ce qu'on pouvait, au fond, une fois qu'on avait purgé sa peine, être réintégré dans la société? Ce débat-là, il se pose, et c'est une forme de parallèle, sur la question des pédocriminels. Est-ce que, une fois qu'ils ont purgé leur peine, ils peuvent revenir dans la société? Est-ce qu'il faut les ficher? Est-ce que vous considérez qu'à vie, un pédocriminel doit avoir l'étiquette pédocriminel sur son front?
Il y a beaucoup de débats, y compris d'experts, de scientifiques sur ces questions-là. Ce dont je suis sûr et certain, c'est qu'il doit y avoir un suivi qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça que dans les propositions que je fais pour appliquer le même traitement et le même suivi aux pédocriminels qu'aux terroristes, je propose par exemple qu'on mette en place un service de renseignement dédié. On a pour le terrorisme évidemment des services de renseignement dédiés qui suivent des terroristes ou des personnes qui manifestement sont en train de préparer un attentat terroriste. Il faut qu'on ait de la même manière un service de renseignement dédié à la pédocriminalité pour traquer les grands réseaux pour prendre des mesures administratives quand elles sont nécessaires pour enquêter. Et ça fait partie de ce parallèle que je propose.
Avant de passer à la suite, je rajoute quand même que dans cet entretien au Parisien, Édouard Philippe, il est dur avec vous, mais alors par contre, il fait les yeux doux à Gérald Darmanin, parce que quand on l'interroge sur la responsabilité du ministre de la Justice, il dit « je le soutiens totalement ». Il y a des histoires quand même de quoi, d'alliances, de signaux. Est-ce que vous pouvez me décrypter cette histoire?
Non, enfin moi je suis pas là pour faire du décryptage politique, et surtout moi je vous ai dit, je vais pas faire de politique politicienne autour de ces sujets. Ils sont beaucoup trop graves. Beaucoup
mais là, est-ce qu'il y a une alliance qui est en train de se
non,
dessiner,
si votre question, par ailleurs,
contre vous?
Mais si votre question, par ailleurs, c'est si j'apporte mon soutien au ministre de la Justice, au garde des Sceaux, évidemment, personne ne peut douter de sa détermination à faire bouger notre système judiciaire, à prendre des mesures extrêmement fortes pour répondre et pour réagir à ce qui s'est passé dans ce drame. Déjà, auparavant,
est-ce
il avait fait un certain nombre
aussi,
de propositions.
Est-ce que ce qui se joue aussi, c'est le fait que Gérald Darmanin, il va falloir quand même, à un moment, soit qu'il décide d'y aller, soit qu'il décide de soutenir l'un de vous deux?
Non, j'espère pas.
Je ne dis pas que c'est un combat de MMA, mais enfin, il y a quand même un peu.
C'est pour ça,
on se demande lequel des deux il va choisir.
Vous savez, Apolline de Malherbe, j'espère pas vraiment qu'on fait de la politique politicienne ou des questions présidentielles sur ce sujet qui est un drame absolu. En tout cas, moi, je le dis, ce sujet-là peut être un sujet autour duquel il y a une union sacrée des politiques, quel que soit leur parti. Parce qu'on parle de nos enfants, c'est-à-dire les plus vulnérables, les plus fragiles. Et le rôle de la République, notre rôle à tous, c'est d'assurer leur protection.
Avec quand même une question, c'est que, comment vous ferez à un moment pour décider qui y va?
Moi,
je veux
vous
dire,
savez,
vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes à peu près sur la même famille. En tout cas, originellement, vous êtes tous les deux d'anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, il y en a un qui va dire « je lâche l'affaire et je laisse l'autre ».
J'ai fait des propositions en ce sens. Parce qu'évidemment, moi, j'appelle au rassemblement. Je veux qu'on évite un deuxième tour entre la France insoumise et le Rassemblement national. Et pour ça, il faudra probablement se rassembler au début de l'année 2027. Donc j'ai fait une première proposition qui est une instance qui permette aux différents partis politiques que vous avez évoqués d'échanger, de travailler. Il y a déjà eu plusieurs réunions sur le sujet. J'ai fait une deuxième proposition. Si on n'arrive pas à départager par la dynamique, par les sondages entre les différents candidats, qu'il puisse y avoir l'organisation d'une primaire. C'est des propositions que j'ai mises sur la table, que je fais pour le rassemblement. Mais je vais vous dire, Apolline de Malherbe, indépendamment des questions arithmétiques, de savoir si on ajoute tel candidat avec tel candidat, indépendamment des questions de barrage contre la France insoumise, contre le Rassemblement national. L'enjeu, c'est d'aller convaincre les Français. L'enjeu, c'est de parler d'un projet politique pour le pays. On n'arrivera pas à convaincre les Français en leur disant « votez pour nous parce qu'on a réussi à se mettre d'accord entre nous ». Mais se mettre d'accord, pourquoi ? Donc moi, j'avance, je m'exprime devant les Français, je leur parle, je leur dis quelles sont mes priorités. École, salaire, frontières, IA. C'est les quatre chantiers capitaux que j'ai affirmés au lancement de ma candidature. Si on arrive à relever ces défis, école, salaire, frontières, IA, la France peut redevenir la première puissance d'Europe en 10 ans. Ça doit être ça notre objectif. Pour les Français qui nous regardent, pour la puissance du pays, pour leur salaire.
Quand vous dites je m'exprime, je viens devant les Français, par contraste, le fait qu'Édouard Philippe soit davantage dans une forme de retrait, il répond à des interviews par écrit, moins par...
C'est ça, non, c'est pas ce que je dis. Moi,
chacun sa formule. Quoi.
Non, en fait, ce que je dis, c'est que plutôt que de se parler entre partis politiques, il faut plutôt parler avec les Français, il faut plutôt leur dire ce qu'on a envie de faire, il faut plutôt leur donner notre vision. Moi, ma vision, elle est claire. Je veux qu'à nouveau, les Français puissent se dire que leurs enfants et leurs petits-enfants auront une meilleure vie que la leur. Comment est-ce qu'on y arrive? En redevenant la première puissance d'Europe. Est-ce qu'on redevient la première puissance d'Europe? En ayant des priorités, école, salaire, frontières, IA.
On les
je le dis, parce que c'est très important et c'est sur ça qu'on sera jugé.
Alors,
pourra redevenir
l'IA,
la première
justement, ce week-end, Donald Trump a coupé une partie de l'IA aux Européens et au reste du monde, estimant qu'il y avait des dangers pour la souveraineté américaine et donc, notamment pour Claude, on n'y a plus accès au niveau supérieur.
Simple
est-ce
5.
Que ça veut dire que désormais nous sommes les vassaux de l'Amérique?
Mais ça veut dire qu'on est quelque part dans une guerre technologique et qu'il y aura les gagnants et les perdants. L'IA, on peut en penser ce qu'on veut, elle est là, elle sera de plus en plus là. La question, c'est est-ce qu'on se donne les moyens de la dominer ou est-ce qu'on la subit?
Mais qu'est-ce qu'il faut dire là à Donald Trump quand il arrive sur le sol français?
Mais, vous savez, indépendamment de Donald Trump, Apolline de Malherbe, la réaction à avoir, c'est faire en sorte que la France et l'Europe puissent maîtriser elles-mêmes l'intelligence artificielle. Je suis le seul candidat à mettre dans mes priorités depuis le début, j'ai pas attendu cette affaire, la question de l'intelligence artificielle. Il y a deux priorités. Un, il faut évidemment avoir les meilleurs modèles. Deux, il faut diffuser l'IA dans notre économie. Les États-Unis font la course aux meilleurs modèles. La Chine fait la course à la diffusion de l'IA dans son économie. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la supériorité technologique qui fait la supériorité économique et militaire.
Donc, il faut le dire autrement. Avoir besoin d'eux.
Et bien sûr, il faut être totalement indépendant d'eux. Et pour le dire autrement,
enfin, totalement indépendant.
C'est parce qu'on
Outlook, Apple, bien Google, sûr. Les iPhones. Si demain il veut faire pour cela ce qu'il a fait sur Claude
évidemment,
ce week-end,
on paye Apolline de Malherbe des décennies pendant lesquelles les gouvernants européens ont décidé de sous-traiter notre défense aux États-Unis, notre industrie à la Chine, notre énergie à la Russie et aux pays du Golfe. Et sur les questions technologiques, on paye le fait qu'on a raté la révolution numérique au début des années.
Vous
2000.
Avez peut-être entendu Raphaël Glucksmann en meeting ce week-end. Il a dit notre ennemi a un visage et il a un nom. Il s'appelle Elon Musk ou Sam Altman.
Non, mais notre ennemi, c'est nous-mêmes. Si on n'est pas capable de prendre les mesures qu'il faut pour nous aussi être capable de maîtriser
mais
cette
est-ce
technologie.
Est-ce que c'est nos ennemis, Elon Musk et Sam Altman?
Encore une fois, c'est des concurrents, c'est des leaders, pour certains, des grands entrepreneurs qui ont permis de créer des géants internationaux. C'est pour certains des politiques ou quasiment politiques qui cherchent à faire de l'ingérence et en cela, évidemment, qui sont des ennemis. Mais l'important, encore une fois, c'est de regarder le principal ennemi qui est nous-mêmes si on n'est pas capable de prendre conscience de l'urgence qu'il y a à faire tout ce qu'il faut pour dominer cette guerre technologique qui s'ouvre. C'est les salaires des Français demain. Vous savez, si aujourd'hui les salaires des Français sont plus faibles que les salaires des Américains, c'est parce que les Américains ont gagné la révolution numérique au début des années 2000, ce qui leur permet d'avoir de meilleurs salaires et de dominer aujourd'hui la question de l'IA. 3 milliards d'euros par jour sont investis par les GAFAM en recherche sur l'IA. Si on rate la révolution de l'intelligence artificielle, c'est l'appauvrissement généralisé de la France et de l'Europe demain. Et oui, nos enfants, nos petits-enfants, pour travailler, auront le choix entre servir du café aux Américains ou du thé aux Chinois quand ils viendront en France et en Europe visiter notre patrimoine. Et pour le reste, on sera effectivement colonisés.
Gabriel Attal, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Candidat à l'élection présidentielle et ancien Premier ministre, bien sûr. Il est 8h47.
Merci Apolline. La suite sur RMC, c'est ce débat. Faut-il suspendre le permis en cas d'usage du téléphone au volant? Et puis le mondial de Virginie, vous connaissez le rendez-vous. Restez bien avec nous, on revient dans quelques secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC. Dans un instant, le mondial de Virginie. Mais d'abord, on parle du téléphone au volant. C'est le choix de la rédaction ce matin. Bonjour Pierre Bourgès.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Correspondant RMC à Bordeaux, Pierre, vous nous révélez ce matin que depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont été suspendus pour usage du téléphone au volant. C'est un chiffre RMC et ce matin, le département des Deux-Sèvres devient le 8e département à mettre en place cette mesure. Il faut dire que les automobilistes, Pierre, sont nombreux à utiliser le téléphone en conduisant.
Ben oui, la preuve lors d'un contrôle routier que j'ai pu suivre près de Niort il y a quelques jours, les gendarmes étaient positionnés sur un rond-point d'une zone commerciale. À ce moment-là, c'était surtout pour faire de la prévention. Mais vous le disiez, Mathieu, à partir d'aujourd'hui, dans les Deux-Sèvres, ces sanctions peuvent désormais tomber. Et ici, en moins d'une heure, 6 personnes ont été arrêtées pour l'usage du téléphone au volant.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Gendarmerie nationale. Donc je procède à votre contrôle par rapport à l'usage du téléphone.
Oui, très bien.
Je vous ai dit. Ça entraîne une suspension du permis de conduire, d'accord? L'infraction du téléphone.
Dans les Deux-Sèvres aussi? Je crois que c'était en Charente-Maritime.
Dans les Deux-Sèvres aussi. Wow. D'accord. Okay.
Le directeur du cabinet du préfet des Deux-Sèvres, Tony Chenelloyd, était lui aussi présent.
Nous avons fait le choix dans le département des Deux-Sèvres de démarrer par une période de 15 jours. On se doute que la suspension d'un permis, ça n'est pas neutre, notamment pour des gens qui travaillent. L'objectif, c'est d'abord de faire prendre conscience aux automobilistes que la route est un espace partagé et que il est impératif d'être concentré, de ne pas être distrait par le téléphone.
Alors on le disait, Pierre, les Deux-Sèvres, c'est le 8e département à mettre en place cette mesure. Les sanctions sont vite tombées.
Oui, ce sont des chiffres que l'on vous révèle ce matin sur RMC. Depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont été suspendus, 21 dans le Pas-de-Calais, 38 dans le Lot-et-Garonne. Depuis le 1er mai en Charente-Maritime, ce sont aussi 55 permis qui ont été retirés. Et dans les Landes, premier département à avoir mis en place cette sanction, 400 permis ont été suspendus depuis le 1er janvier.
Vous avez retrouvé d'ailleurs une automobiliste qui a été victime de cette nouvelle règle?
Oui, j'ai rencontré Claire, cette coach sportive landaise nous raconte comment elle a perdu son permis en janvier dernier pendant 2 semaines.
En milieu de chemin, mon support téléphone a cassé et à ce moment-là, j'avais besoin de mon GPS. Donc je tiens mon téléphone dans la main et en fait, j'entends la sirène qui me prévient que je me suis fait voir en tenant mon téléphone, quoi, tout simplement. Si je dois être honnête, je me suis effondrée parce que mon activité me demande de me déplacer tout le temps et je suis à un endroit où il y a pas de moyen de transport. Et donc là, je me suis dit, c'est une catastrophe. Même 15 jours, c'est une catastrophe. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai essayé de faire en sorte que mes rendez-vous soient plutôt en visio qu'en réel.
Alors oui, c'est embêtant quand on travaille, même 15 jours, mais on va le rappeler quand même, conduire avec son téléphone à la main, c'est illégal, Pierre.
Mais c'est surtout très dangereux, comme le rappelle Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière.
Quand vous téléphonez au volant, vous avez des temps de réflexe qui sont multipliés par deux. Donc des distances d'arrêt et de réaction qui sont multipliées par deux. Vous avez un champ de vision qui est réduit de 35% et vous avez aussi votre attention qui est réduite de 30%, y compris lorsque vous téléphonez en Bluetooth.
Alors lui salue cette sanction qui peut s'échelonner de 15 jours à 6 mois si d'autres infractions sont constatées en même temps. Il encourage même les autres départements à mettre en place également cette mesure.
Mais est-ce qu'au moins c'est dissuasif ?
Alors selon les chiffres des départements, oui, dans les Landes et en Charente-Maritime par exemple, depuis la mise en place de cette sanction, le nombre d'infractions constatées a diminué de 10 à 25%.
Merci Pierre Bourgès, correspondant dans le Sud-Ouest pour RMC. RMC, c'est bien sûr aussi la radio de la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Coupe du Monde que vous vivez avec RMC, avec Virginie le matin. On est en plein dans le premier tour de cette Coupe du Monde, mais on va le dire, hein, on pense déjà demain à France-Sénégal.
Évidemment, et on connaît l'arbitre qui va officier pour ce match d'entrée de la France dans cette Coupe du Monde, c'est l'Australien Alireza Fagani. Vous allez me dire oui, d'accord, et c'est pas lui qui joue, donc on en fait quoi ? Ben oui, mais on le connaît cet arbitre, c'est l'homme qui tenait le sifflet à ce moment-là.
Second poteau Pavard.
Ah ben je l'aime bien.
Ah ben oui, forcément, on l'aime bien. Le bon souvenir par excellence, 2018, huitième de finale de l'équipe de France contre l'Argentine. La France qui revient à deux partout grâce à donc Benjamin.
Les Bleus qui vont jouer dans un stade pas facile d'accès, hein, contre le Sénégal.
Le MetLife Stadium près de New York. Il faut espérer pour les supporters que ce sera moins la pagaille que ce week-end pour le match Brésil-Maroc au même endroit, vu que le prix du train pour s'y rendre du centre-ville a grimpé à près de 100 $. Beaucoup de supporters ont voulu prendre le bus. Mais il n'y en avait pas assez. Résultat, ils se sont rabattus sur des taxis partagés qui se sont retrouvés coincés dans les bouchons. Bon, alors tout le monde est arrivé très en retard. Franchement, autant le dire, vous êtes mieux sur RMC pour suivre la
Coupe du Monde. Ah, il n'y a pas de débat là-dessus. L'avion des Bleus a eu un peu de retard au départ de Boston pour New York, mais ça, c'est rien à côté de l'Uruguay.
Ah, bah, l'équipe uruguayenne a patienté 4 heures dans son avion à l'aéroport de Cancun au Mexique pour rejoindre Miami. C'est là que l'Uruguay affronte l'Arabie Saoudite à minuit ce soir. L'avion n'avait pas les documents nécessaires pour entrer dans l'espace aérien américain. Il a fallu que la FIFA remue ciel et terre pour obtenir ces fameux papiers de l'administration américaine. Les Uruguayens ont annulé leur conférence de presse prévue à l'arrivée. Normalement, c'est passible d'une forte amende, mais la FIFA devrait quand même être compréhensive.
Elle est souple en ce moment, la FIFA. L'équipe d'Angleterre est maudite dans cette Coupe du Monde, Virginie.
Les Anglais n'entrent en lice que mercredi, mais ils ont déjà eu quelques frayeurs. Il y a eu la fusillade près de leur camp de base où ils n'étaient pas. Il y a eu les répliques d'un séisme près d'Orlando où ils jouaient un match de préparation. Samedi, une partie de leur matériel d'entraînement, des ballons et des chaussures, a été volé alors qu'il était en cours d'acheminement vers leur centre à Kansas City. Et voilà qu'hier, les Anglais ont dû se confiner dans leur hôtel à cause d'une alerte tornade dans la région. Ça commence à faire beaucoup avant même le premier match.
En fait, ils n'ont toujours pas joué, c'est vrai. Ils devraient se trouver une mascotte, les Anglais, comme les Mexicains.
Bah, je vois plus que ça. C'est le supporter le plus connu de l'équipe du Mexique. Maintenant, un canard nommé Merlin, un vrai, hein, pas une peluche. Il est habillé avec le maillot de l'équipe nationale. Il déambule dans la rue avec des chaussettes aussi pour pas se blesser. Tout ça sous les hurrahs de la foule, pas les coin-coin. Hein. Merlin est la nouvelle star des réseaux sociaux. Sa propriétaire voit en lui quelque chose de magique, d'où le nom. Tout est bon pour encourager son équipe, en fait. Hein.
On va finir en musique, Virginie, ce matin.
Mais oui, alors c'est quoi cette musique qui accompagne les joueurs à leur entrée sur les terrains ? Alan Parsons Project, le titre Sirius, ça date de 1982. Alors c'est une super musique d'entrée, mais 1982, là pour le coup les souvenirs on repassera, c'est vieux, on n'en parle plus.
Non, je sais même pas de quoi vous parlez. Non, 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 c'est la musique des Bulls qui est rentrée avec Michael Jordan aussi.
On va voilà, dire ça comme ça.
Alain Marshall disait non, 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 de la tête sur 1982.
Moi je suis un maudit de la génération 82. Ce match que j'ai vu en direct à l'époque, je n'ai jamais revu depuis. Et je me refuse à
ce match-là.
C'est
oui.
Dur.
Non, non, c'est 82, laisse tomber.
On a fait mieux après.
Hein. Oui, les grandes gueules arrivent. On recommandera avec lui, avec Mourad Boudjelal, sa fameuse sortie. Encore 3 déclarations de revenus et je me casse. Elle a fait des millions de vues. Elle a eu un sacré écho. Mourad Boudjelal viendra s'en expliquer dans les GG, dans les grandes gueules. On reparlera des suspensions de permis pour cause de téléphone au volant. De Xavier Bertrand sur BFM TV qui dit c'est difficile de vivre en France quand on est musulman et qu'on n'est pas blanc de peau. Et puis nous recevrons une magistrate, Valentine Vendôme, c'est son pseudo. Elle est procureure le jour, écrivaine la nuit. Et on reparlera de la justice avec elle, bien sûr.